Europe Matin Weekend.
Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver, nous vous espérons en forme. J'en connais un qui se repose, c'est Thierry Dagiral. Et croyez-moi, il le mérite, je le remplace ce week-end, vous le retrouverez dès la semaine prochaine. C'est un très beau week-end de sport, on a de la chance, c'est du côté de chez nous. Roland Garros évidemment, 4 Français sur le court aujourd'hui. Et la grande finale de la Ligue des Champions de football, Liverpool-Real Madrid au Stade de France. On en parle évidemment dans nos journaux toutes les demi-heures sur Europe 1. Et puis vos rendez-vous, 6h20, question conso, la loi française adapte une directive européenne pour mieux encadrer les promotions commerciales. En période d'inflation, ça protège des arnaques. Yves Puget de Libre Service Actualité nous en parlera. Et puis nous recevrons le médecin urgentiste Patrick Peloux, ce sera vers 7h10. Comment répondre à la crise des urgences? Plus de 120 hôpitaux se disent en détresse. Ils sont parfois obligés de fermer les urgences. Nous en parlerons très largement après 7h. Et puis nos chroniqueurs sont là. 6h40, rencontre avec l'incroyable chanteuse sourde Oshi avec Naïma Bencheman. 6h50, balade en Italie chaudement recommandée par Vanessa Zah en ce week-end de l'Ascension. Et puis le Club Culture, dans la dernière demi-heure, on va tenter notamment de convaincre les derniers réfractaires à aller voir la suite de Top Gun.
Bienvenue à tous.
Europe 1, il est 6h. Europe Matin, première édition.
Europe Matin Weekend.
Raphaël Delvolvé.
Europe Matin, première édition avec Johan Tritt. Bonjour Johan.
Bonjour à tous. La situation aux États-Unis de plus en plus divisée entre anti et pro-armes après la fusillade au Texas. Des manifestations ont lieu en plein congrès de la NRA où Donald Trump a prononcé un discours. On ira sur place.
L'événement aujourd'hui, la finale de la Ligue des Champions de football au Stade de France, Liverpool-Real Madrid, ce sera à vivre sur Europe 1. Les premiers supporters sont impatients avant la rencontre. Nous les entendrons dans ce journal.
Et puis dans le Sud, autre événement, le festival de Cannes qui va bientôt fermer ses portes. Mais qui va gagner la Palme d'Or? On vous donne les favoris en fin d'édition.
Dans la prochaine demi-heure, bien fait pour vous, ce sera juste après le journal Comment dépasser ses limites, c'est ce qu'on va apprendre. Et puis l'interview qu'on soit avec Yves Puget, directeur de la rédaction de Libre Service Actualité. La tendance météo, bonjour Valérie Darmon.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Du soleil partout, mais des températures trop fraîches, 2 à 3 degrés en dessous des normales au nord et de fortes chaleurs au sud.
Eh bien, on se retrouve à la fin du journal pour une météo complète.
Europe 1.
Direction les États-Unis pour commencer. Les États-Unis où l'ancien président Donald Trump vient de parler 3 jours après la fusillade qui a fait 22 morts dans une école primaire au Texas.
Oui, une prise de parole très attendue à Houston au congrès de l'association Pro-Armes, la NRA, à seulement quelques heures de route du drame. À Viva Fried, vous êtes sur place pour Europe 1. Donald Trump qui a prononcé un discours en pleine tempête.
Honte à vous, crient les manifestants rassemblés à Houston en réponse au congrès de la NRA. Il fait 35 degrés ici, mais cela n'a pas dissuadé les centaines de personnes qui sont là. Bambi Brown est venue en mémoire de Kimberly, une petite fille tuée il y a 4 ans dans le massacre d'une autre école du Texas.
Je pensais qu'on aurait fait quelque chose depuis le temps. Rien n'a été fait. Ça me fait mal au cœur, ça me fait mal à l'âme que des enfants continuent de mourir.
La police tient à distance les deux camps. La tension est vive. À chaque fois qu'un membre de la NRA sort du centre de congrès, les manifestants le huent.
Donald J. Trump.
Pendant ce temps à l'intérieur, la star du show, c'est Donald Trump. Après avoir lu le nom des victimes de la tuerie d'Uvalde,
Aletha Ramirez.
Il multiplie les attaques contre les démocrates et Joe Biden. Des contre-vérités assénées pour séduire son auditoire.
Il paraît que l'administration Biden envisage de livrer la responsabilité de votre deuxième amendement à des bureaucrates de l'ONU.
Les armes à feu comme argument électoral, une politisation qui empêche toute vraie réforme. À Houston, Aviva Fried, Europe 1.
Et dans le même temps, la colère ne faiblit pas. À Uvalde, le lieu du drame, la police, sous le feu des critiques, vient une première fois d'être pointée du doigt officiellement.
Oui, les forces de l'ordre ont pris une mauvaise décision. Le mea culpa du directeur de la sécurité publique du Texas, Stephen McCrow. La police critiquée après avoir trop attendu avant d'intervenir, près d'une heure selon l'enquête. C'est dans ce contexte que Joe Biden est attendu demain sur place.
L'Ukraine, la situation dans le Donbass, très critique.
Oui, l'armée russe qui a accéléré ses bombardements, mais aussi sa pression autour de Severodonetsk, dernier bastion ukrainien de la région de Louhansk. La ville de Liman a été capturée, information confirmée par Kiev, coupant l'un des derniers accès à cette cité. Severodonetsk en grande partie détruite et encerclée, rappelant la situation de Mariupol il y a plusieurs semaines.
En France, l'affaire des intoxications à la salmonelle au lendemain des excuses de Ferrero. La pilule ne passe toujours pas du côté des victimes.
Une pilule difficile à avaler, tout comme les Kinder qui ont contaminé 80 personnes, dont plusieurs enfants. Après une enquête interne, le souci viendrait donc d'un filtre retrouvé dans un bloc de beurre. Une faute lourde que toutes les excuses du monde ne parviendraient pas à effacer, selon Maître Richard Legrand, avocat de plusieurs familles.
J'estime que ces excuses viennent un peu tard. On arrive bientôt début juin, ça fait maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que le scandale a éclaté dans cette affaire. C'est affligeant, enfin, on a des négligences, on arrive malheureusement à des drames. On parle de produits de grande consommation, des produits que n'importe qui pourrait consommer. Malheureusement, les familles peuvent se sentir en insécurité maintenant. Il manque plus de moyens, plus de dispositifs permettant d'éviter ce genre de drame, avec plus de contrôle, et qu'on puisse mieux prendre en considération les alertes qui sont aussi émises, par exemple, par les salariés. Là, on a atteint un point de non-retour. Il y a des limites qui ont été franchies. Il faut agir.
Maître Richard Legrand, propos recueillis par Guillaume Dominguez. La salmonellose, comme la variole du singe, qui inquiète toujours.
Ouais, 7 cas ont été avérés en France par le ministère de la Santé, qui a procédé à 2 vaccinations de personnes ayant eu un contact à risque. Mais l'OMS alerte, les cas détectés ne pourraient être que la partie visible de l'iceberg.
La route des vacances maintenant. Vous êtes nombreux à avoir choisi le bord de la mer, notamment, mais attention aux mauvaises surprises.
Oui, car avec des températures plutôt agréables à certains endroits de la France, on est évidemment tenté de se jeter à l'eau, mais certaines plages ne sont pas surveillées. Dans le sud-ouest, le sous-préfet de Gironde, Martin Guépéreau, met en garde.
C'est un très gros week-end, ce premier gros week-end de l'année de 4 jours de l'Ascension, et la côte est particulièrement remplie. Et en fait, notre message de vigilance, c'est par rapport aux baïnes, ces espèces de bassins de 400 mètres de long dans la plage, qui se remplit par les vagues et qui crée un grand courant. Donc c'est assez impressionnant et ça fait même peur. Si on est pris dans une baïne, malgré tout, il faut se signaler, il faut surtout se laisser flotter. Il ne faut pas lutter contre le courant. Il n'y a aucun nageur, aussi fort soit-il, qui peut résister à ce courant-là. Le courant finira par vous ramener sur la côte, mais en ayant amené la personne très au loin, donc c'est assez impressionnant. Mais il faut vraiment flotter, se signaler et revenir sur la côte plus loin.
Martin Guépéreau, sous-préfet de Gironde, au micro de CNTA.
On passe au sport avec un premier succès en Coupe d'Europe de rugby pour le Loup Lyon.
Ah oui, on entend la joie des joueurs lyonnais après leur victoire face à Toulon 30-12 au stade Vélodrome de Marseille. Succès en Challenge Cup, la deuxième Coupe d'Europe. Le Loup qui a totalement dominé des Varois déçus après le match. C'est le sentiment en tout cas de Franck Azéma, directeur sportif du RCT.
Oui, je sais pas, je pense qu'on a voulu y rentrer, mais qu'on était... Il faut reconnaître que Lyon ce soir a fait une très belle performance. Ils ne nous ont pas laissé d'espace. Ils nous ont pressé en permanence de la première minute jusqu'à la dernière. Et dans tous les secteurs de jeu, que ce soit devant, derrière, dans le jeu au pied, l'occupation, on a été pris partout. On a eu un temps de retard en permanence. Et ben voilà, c'est le rugby, c'est un jeu de pression. Et soit tu l'exerces, soit tu l'as subi. Ce soir, on l'a subi malheureusement.
La finale de la grande sœur, c'est à 17h45 avec un club français en lice, La Rochelle, qui affronte du lourd, hein, les Irlandais du Leinster.
Et puis, autre finale de Coupe d'Europe en football. Cette fois, la finale de la Ligue des Champions, ce sera à vivre ce soir sur Europe 1.
Oui, cette affiche exceptionnelle entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France. Sadio Mané contre Karim Benzema. 100 000 supporters espagnols et britanniques vont venir envahir la capitale. Et chez les Madrilènes, on attend ce match avec impatience. Zoé Palier est allé discuter avec plusieurs d'entre eux.
Il fait les 100 pas devant le stade Bernabéu pour vendre des écharpes aux couleurs du Real. Pour Séraphin, aucun doute, son club de cœur va remporter ce soir sa 14e Ligue des Champions.
Je vais regarder le match ici, au stade, sur les écrans géants. Ce sera l'une des meilleures finales de ma vie. Je sais qu'on va gagner. Regardez, contre Chelsea, on perdait et on est remonté. Et contre Manchester, on perdait et on est remonté.
Et s'il est aussi confiant, c'est grâce à un certain numéro 9, Benzema, que Séraphin verrait bien auteur d'un doublé ce soir sur la pelouse du Stade de France.
Il sera heureux de jouer dans son pays, en France. Il faut qu'il prouve ce dont il est capable à Paris.
On n'a pas besoin d'Mbappé quand on a Benzema, approuve Ariel. Il rappelle en souriant que Madrid a renversé le PSG au match retour en 8e de finale.
Le Real va gagner 3-1 grâce à Benzema. Mbappé va nous regarder gagner la Ligue des Champions et va voir un autre Français, Benzema, remporter le Ballon d'Or.
Mbappé lui promet de soutenir les Madrilènes contre Liverpool, déclaration qui n'inspire aux supporters du Real qu'un soupir d'indifférence.
Zoé Pallier, la rencontre est à vivre en intégralité sur Europe 1 à partir de 20h ce soir.
Et puis l'autre événement du jour, Johan, c'est la fin du Festival de Cannes.
Et une question que l'on se pose tous, qui va gagner la Palme d'Or ? Élément de réponse avec Marie Jiquel.
Et oui, deux films belges se sont distingués lors de cette 75e édition, sans surprise. Celui des frères Dardenne, déjà deux palmes d'or sur leur cheminée, ils présentaient Tori et Lokita, drame social qui pourrait d'ailleurs toucher Vincent Lindon, sensible à ces problématiques. Tori et Lokita qui racontent le parcours de deux réfugiés béninois.
Qu'est-ce que tu penses de mon idée de voler de la drogue ?
J'ai pas envie que tu deviennes un dealer et que t'arrêtes l'école.
Sortie prévue en septembre prochain, et puis un outsider, et vous savez que le jury flash souvent sur les cinéastes plus discrets. Ce réalisateur avait déjà marqué les esprits en 2018 avec son film Girl, caméra d'or cette année-là. Il s'agit de Lucas Donte qui a ému la croisette avec son drame Close. Beaucoup de larmes devant cette amitié entre deux adolescents, une amitié moquée par le reste de la classe.
Je veux dormir chez Rémi ce soir.
Mais d'autres films pourraient faire de l'ombre aux réalisateurs belges. RMN du roumain Christian Mondjou, déjà palme d'or avec son film 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Et puis le film Leïla et ses frères, signé Saïd Roustaï, cinéaste iranien révélé par son film La loi de Téhéran.
Marie Jiquel pour Europe 1 et pour les résultats, réponse ce soir à 20h30.
C'est bien noté, merci Johan Tritz. La météo, Valérie Darmon, plein soleil aujourd'hui.
Eh oui, plein soleil de Cannes, justement, à Lille. Des Hauts-de-France à la Haute-Normandie, au bassin parisien, au Grand Est. Le ciel qui est partagé entre nuages et éclaircies, mais excepté quelques petites averses près des frontières du Nord. La journée qui est très agréable, un tout petit peu fraîche, surtout ce matin sur la moitié Nord. Sur le reste du pays, le temps qui s'annonce lumineux dès le lever du soleil, c'est-à-dire maintenant par endroits, malgré un ciel voilé ce matin par des nuages bas ou des brouillards ici ou là. Mais ces derniers vont laisser très vite la place au soleil. Sur les Alpes-Maritimes et la Corse, on a des averses parfois orageuses qui vont se déclencher cet après-midi. La Tramontane qui souffle dans son domaine jusqu'à 70 km/h et le Mistral jusqu'à 90.
Merci Valérie Darmon que l'on retrouve toute la matinée pour la météo. À partir d'aujourd'hui, les magasins en ligne ou dans votre rue vont devoir se conformer à une directive européenne sur les promos, notamment les prix barrés. Ils ne doivent pas induire le consommateur en erreur, pas être trop vieux, vous allez vite comprendre. Le directeur de la rédaction du magazine Conso, LSA, est avec nous dans 10 minutes, mais avant... Les courses, les pronostics de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Raphaël, c'est sur l'hippodrome d'Enghien que va se courir ce quintet. Une très belle course européenne qui réunira 16 chevaux âgés de 5 à 7 ans qui en découdront sur la distance de 2150 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Et sur ce tracé de vitesse, il est impératif de retenir les chevaux s'élançant en première ligne avec les numéros 1, Haribo du Loisir, 2, Wild West Diamant, 5, Bolero Gare et 8, Heart of Gold, 4 trotteurs, tous âgés de 5 ans, dont la parfaite condition physique est certaine, ainsi que leur aptitude à ce genre de parcours. Derrière ces 4-là, je vous propose les numéros 3, Kennedy, qui peut être considéré ici comme un coup sûr absolu dans les 5 premiers, jugé sur ce qu'il a réalisé de mieux, 6, Fiesta du Belvert, qui à l'issue d'un parcours caché devrait pouvoir accrocher une place à une cote spéculative, 11, Sahara Gerburn, visiblement en progrès depuis qu'elle est entraînée par Philippe Allaire, et 14, Balsam Infant, avec laquelle ce sera une nouvelle fois une question de sagesse. As, 2, 5, 8, 3, 6, 11 et 14. C'est mon pronostic pour ce quintet qui va se courir cet après-midi sur l'hippodrome d'Anguin.
L'As, le 2, le 5, le 8, le 3, le 6, le 11, le 14. C'est bien noté, Thierry Léger. Tout cela est à retrouver, bien évidemment, sur notre site europe1.fr.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Jour de sport sur Europe 1. On va vous faire vivre la finale de la Ligue des Champions, la fin du troisième tour à Roland-Garros. Le sport, voilà un domaine où il faut dépasser ses limites, mais pas seulement le dépassement de soi. Julie Vignali et Mélanie Gomez en ont parlé dans Bien fait pour vous. C'était cette semaine sur Europe 1.
Notre question du jour, la voici. Comment dépasser nos limites? On en parle avec vous, David Laroche. Vous êtes coach de dirigeant, entrepreneur. Vous avez 750 000 abonnés sur votre chaîne YouTube qui est dédiée à ce sujet, notamment le dépassement de soi. Alors, pour dépasser nos limites, il faut peut-être commencer par définir nos objectifs, qu'ils soient professionnels, sportifs ou autres. Et selon vous, donc, il faut pas viser la lune, vous dites, mais il faut pas non plus viser des choses trop faciles, des objectifs réalisables. Comment on définit les choses, alors?
Alors, c'est pas exactement ça. En fait, il y a une étude qui a été menée par General Electric où ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi il y avait des différences de performance entre les entreprises qu'ils avaient, entre les usines qu'ils avaient. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que si une personne a un objectif extrêmement ambitieux, elle va avoir une libération de la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui nous motive. Et elle va avoir de l'énergie pendant un temps qu'elle n'avait pas d'habitude. Mais au bout d'un moment, le fait de vouloir monter l'Himalaya, ça a une telle distance que ça va du coup nous démoraliser. À l'inverse, quelqu'un qui a des tout petits objectifs, il va avoir du coup des petites libérations de dopamine qui le motivent, mais il n'y a pas ce grand truc qui lui donne envie de faire des trucs de dingue. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que le meilleur des deux mondes, et c'est encore une fois pourquoi j'ai appelé mon entreprise Paradox, l'excellence naît dans le fait justement d'être à l'aise avec des opposés. Avoir un grand rêve ambitieux, long terme, lointain, qu'on ne sait même pas si on va réaliser, et à court terme, ça peut être à l'échelle de la semaine, du mois ou du trimestre, d'avoir des objectifs qui, eux, sont bien plus réalisables, spécifiques, et on sait qu'on va pouvoir atteindre. Et c'est le mélange des deux qui va nous rendre plus performants.
Bon, c'est très clair, hein. Même si on ne les atteint pas, ces objectifs, que ce soit celui qui est tout en haut, celui qui est un peu plus bas dans l'échelle, vous dites, je crois que l'échec peut être ressource. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça?
Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que, spécialement en France, quand on compare par exemple les mêmes publicités françaises et américaines, on se rend compte qu'on est dans une culture où l'échec, c'est mal. Ça, c'est un indicateur que tu as un problème. Or, quand tu prends le classement des basketteurs américains qui ont échoué le plus de paniers, dans le top 10, oui, on va retrouver trois sportifs. On va retrouver Michael Jordan, LeBron James et Kobe Bryant. Sous-entendu, les trois plus grandes légendes du basket américain sont aussi celles, donc celles, enfin aussi ceux qui ont échoué du coup le plus de paniers.
C'est bon à garder en tête, bah ça, oui, je trouve, hein, Clément.
C'est ceux qui ont le plus tenté, en fait.
Exactement. Et on se rend compte que ça soit dans le cinéma ou alors dans l'entrepreneuriat, plus on va itérer, c'est-à-dire que plus on va avoir des tentatives, à condition bien sûr qu'on soit capable d'apprendre. Donc c'est pour ça, l'échec peut être ressource si j'arrive à apprendre de cet échec pour pouvoir du coup recommencer.
C'est très intéressant. Alors, dépasser ses limites, il y en a un qui connaît ça par cœur. Philippe Croizon est au téléphone avec nous. Bonjour Philippe.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors vous, c'est suite à un grave accident que vous avez été amputé des bras et des jambes. Et pour vous, ça a été un déclencheur, je dirais, plus qu'une condamnation. Comment, j'imagine qu'il n'y a pas eu que des moments faciles, mais comment vous expliquez que vous ayez réagi, vous, de cette façon?
Bah, c'est la résilience, hein, c'est pouvoir rebondir. Et c'est vrai que j'avais ce vieux rêve quand je me suis réveillé sur mon hôpital. J'ai vu une jeune fille traverser la Manche à la nage. C'était la deuxième Française à réussir depuis 1875. Et je me suis dit, pourquoi pas moi un jour? Après, j'ai passé ces longues périodes, les cinq phases du deuil, hein, la négation, la colère, la négociation, la dépression et le retour à la vie. Et après, je me suis lancé dans cette aventure de vouloir traverser la Manche à la nage, l'aventure qui va changer ma vie.
Justement, vous n'avez pas fait que ça. Vous avez traversé la Manche, oui. Vous avez relié les cinq continents à la nage. Vous avez participé au Rallye Dakar et je m'arrête là. Mais comment vous avez fait pour avoir ces objectifs vraiment incroyables? Ils étaient quand même un peu fous. Alors peut-être pas pour vous, mais j'imagine que les autres autour de vous devaient vous dire mais Philippe, où vas-tu?
Oui, bah, y a ceux qui vous disent Philippe, c'est pas possible parce qu'ils ont peur pour vous. Et il y a ceux qui vous disent Philippe, c'est pas possible parce qu'ils ont peur pour eux. Ils ont peur que vous réussissiez. Donc ça se télescope un petit peu dans tous les sens. Mais vous avez un objectif, vous avez un rêve. Et vous savez, moi, je l'ai dit toujours, ma mission, c'est de dire tout est possible. Vous le savez, quand vous voulez faire une aventure, que vous avez un objectif, vous avez un rêve, si vous n'y allez pas, c'est parce que la peur a été plus fort que tout, le doute a été plus fort que tout, mais au fond de vous, vous le saviez que c'était possible.
Alors vous êtes
et surtout, la phrase qu'il ne faut pas dire à la fin, c'est de dire « Merde, si j'avais su !» Puisqu'au fond de vous, vous le saviez.
Qu'est-ce que vous disiez, parce que bon, j'imagine que ça n'a pas été une promenade de santé tout le temps, ça, il y a eu des moments durs dans ces traversées, quand les éléments étaient contre vous par exemple, comment vous avez trouvé la force dans ces moments-là de continuer malgré tout? Est-ce que vous auriez peut-être un conseil pour nos auditeurs dans ces moments-là qui pourraient nous inspirer?
La force, elle vient de mon équipe, hein. Vous savez, moi je suis un gros feignant, hein. Si je n'ai pas une équipe derrière moi pour m'aider, pour me booster, pour me porter, c'est vraiment l'équipe qui me porte, et quand je ne vais pas bien, l'équipe me remonte le moral, et quand mon équipe ne va pas bien, c'est moi qui lui remonte le moral. C'est vraiment un travail très très fort. Mmh. Et surtout, à partir du moment où des gens vous accordent la confiance, vous ne pouvez plus les décevoir. C'est vraiment mon énergie, c'est la confiance que les gens m'accordent.
La confiance, et donc être bien entouré, si je comprends bien. Mais vous avez justement écrit des livres, vous donnez aussi des conférences. Qu'est-ce que vous avez envie tant de partager? Vous pensez que c'est contagieux, là, le dépassement de soi?
Ouais, j'en suis persuadé que ça peut être contagieux. Vous savez, c'est comme l'optimisme, c'est comme des choses comme ça. On a envie de partager. Moi, vous savez, je fais entre 80 et 100 conférences. D'ailleurs, je suis en Ardèche, je vais donner une conférence dans quelques minutes. C'est l'envie de partager, l'envie d'offrir, de dire « Regardez, c'est possible d'offrir mon énergie ». Vous savez, j'ai pris 3 décharges de 20 000 volts. Hein. Depuis, je suis devenu distributeur d'énergie positive, donc tout va bien.
Justement, vous allez participer le 11 juin prochain au Palais des Congrès à un événement qui s'appelle « Never Give Up ». Qu'est-ce que c'est en quelques mots, Philippe?
Ah, mais ça, c'est l'événement qu'il ne faut pas manquer. Enfin, j'en suis persuadé. Enfin, ceux qui ont besoin d'énergie, ceux qui ont besoin de rebond. Et tiens, même, pourquoi pas les chefs d'entreprise, les petits chefs d'entreprise qui ont des TPE, des PME. Amenez vos collaborateurs à cet événement Never Give Up, parce qu'on va leur offrir une énergie de dingue. Vous savez, je ne suis pas tout seul. Hein. Il y a Guillaume Bat, il y a Ty Chris, il y a Aristide Béraud. Il y a plein d'intervenants, toute une après-midi complète jusqu'au soir, où on va offrir notre énergie. Donc, ne manquez vraiment pas cet événement.
Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous. C'est du lundi au vendredi, de 11h à midi, sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Raphaël Delvolvé.
Allez, un bref coup d'œil sur l'information, l'actualité, Johan Tris.
Donald Trump appelle à armer les citoyens, résumé de la prise de parole de l'ancien président au congrès de la NRA. Des manifestants pro et anti-armes se sont fait face en marge de l'événement qui a lieu à Houston, au Texas, à quelques heures de route seulement d'Uvalde, lieu de la fusillade qui a fait 22 morts dans une école primaire. Les autorités locales ont admis avoir pris une mauvaise décision après la colère des familles des victimes. La police a attendu près d'une heure avant d'intervenir. Joe Biden se rendra sur place demain. Aux États-Unis, toujours avec la fin du procès entre Amber Heard et Johnny Depp. Les jurés se sont retirés pour délibérer. En Ukraine, situation toujours critique dans le Donbass. La ville de Severodonetsk est encerclée. C'est le dernier bastion ukrainien de la région de Louhansk. Et puis, qui va remporter la Palme d'Or à Cannes? Le festival touche à sa fin. Réponse ce soir à 20h30.
Merci Johan Tritz. Prochain journal à 6h30 sur Europe 1. Mais avant cela, cette nouvelle directive européenne transposée dans le droit français aujourd'hui. L'encadrement des promotions, parfois bien trop alléchantes pour être vraies. Un seul objectif, défendre le consommateur éprouvé par l'inflation. Notamment le directeur de la rédaction d'LSA, Yves Puget, nous répond à tout de suite.
Europe Matin Weekend, Raphaël Delvolvé.
Dans quelques minutes, le retour des informations, mais avant, question conso. Attention aux promotions bien trop avantageuses sur Internet. Vous savez, la superbe tablette que vous avez achetée le mois dernier, elle était à 80 euros au lieu de 150. C'est le 150 euros barré qui nous intéresse ce matin dans Question Conso, car aujourd'hui, une directive européenne est transposée dans le droit français pour mieux encadrer le prix barré. Ça vaut pour Internet d'ailleurs, mais aussi pour les magasins. Nous en parlons avec Yves Puget, directeur de la rédaction de Libre Service Actu LSA, magazine référence de la consommation en France. Bonjour Yves Puget.
Oui, bonjour.
Alors, la première des réalités qui se cachent derrière cette directive européenne aujourd'hui transposée dans le droit français, c'est que l'on a tous, en tout cas beaucoup d'entre nous, été exposés à une arnaque ces dernières années, du moins à une offre un peu trop alléchante pour être vraie.
Oh, certainement pas toujours, mais probablement de temps en temps. Oui, c'est la fameuse question du prix de référence, c'est-à-dire s'il y a une promotion, il y a bien un prix de référence antérieur. C'est un vieux débat, on en parle depuis 2019, donc à partir du 28 mai 2022, les Français vont être obligés d'indiquer tout simplement le prix le plus bas des 30 derniers jours. Donc il n'y a plus de tromperie possible.
Jusqu'à aujourd'hui, que disait la loi ?
La loi, il y avait vraiment un petit flou juridique. La loi a été beaucoup plus claire avant 2019 et des distributeurs ont profité d'un petit flou juridique où effectivement, il n'y avait pas obligation de montrer sur une durée le prix antérieur. Donc effectivement, il y avait un petit flou juridique. Donc ça s'applique bien effectivement à l'e-commerce, tout ce qui est sur Internet, mais également aux magasins. Ce qui peut d'ailleurs poser un petit problème pour les magasins, c'est-à-dire c'est quoi le prix de référence lorsque vous avez un même produit qui est vendu à des prix différents dans un réseau de magasins. Si l'enseigne veut faire une annonce en communication à la radio, par exemple, sur un prix d'un produit, quel est le prix de référence à partir du moment où le prix n'est jamais le même? Donc, des distributeurs demandent un petit peu de temps pour comprendre l'application de cette nouvelle règle.
Alors, les distributeurs, les commerçants sont obligés d'afficher le prix donc maximum des 30 derniers jours. Pourquoi est-ce qu'on restreint autant ce laps de temps?
Oh ben, 30 derniers jours, c'est la rotation en général des produits. Ça paraît effectivement une bonne durée. Ce sera un niveau européen. C'est pour éviter tout simplement qu'on vienne introduire un produit très rapidement et de le promotionner juste après. Donc, c'est aussi des choses qui pourraient exister ou qui peuvent exister au moment des soldes. Donc, 30 derniers jours, ça permet d'être sûr que le produit est un produit vendu depuis un certain temps dans le magasin ou sur le site internet. C'est une durée qui paraît raisonnable.
Toujours mieux protéger le consommateur. Alors, que risque le distributeur s'il ne respecte pas la règle, s'il met un prix barré, un prix de référence trop ancien?
Mais là, la loi évoque 300 000 euros d'amende, donc ça peut venir vite si c'est à partir du moment sur chaque produit. Donc oui, les distributeurs ont intérêt à faire attention et à bien estimer quel est le prix de référence, parce qu'il faut comprendre que sur Internet, les prix sont certes uniques sur un site, mais bougent très rapidement. Donc il y a des prix qui bougent toutes les heures ou même toutes les minutes. Et dans les magasins, ce qu'on vient de dire tout de suite, c'est qu'effectivement, les prix ne sont pas les mêmes dans les magasins. Donc c'est une loi qui sera pas si simple à appliquer. Donc il y a des process à mettre en place pour les distributeurs et les e-commerçants.
L'esprit de cette directive européenne, c'est de toujours mieux protéger le consommateur, d'autant que on est dans un contexte, rappelons-le, d'inflation galopante, 4,8% sur un an le mois dernier.
Oui, les distributeurs et même les industriels sont dans l'obligation de repenser leurs habitudes promotionnelles, parce que ce qui marchait du temps de non-inflation, de déflation, marche moins bien aujourd'hui. On peut prendre un exemple, une remise de prix différée, c'est-à-dire vous avez la remise lorsque vous revenez en magasin, mais aujourd'hui ça va moins bien marcher qu'une remise immédiate, parce que des Français ont un vrai problème de pouvoir d'achat. Donc les distributeurs sont dans l'obligation de repenser aujourd'hui leur système promotionnel pour répondre à cette question de pouvoir d'achat et de course qui est en train de changer, des Français qui font des courses avec des paniers moyens moins élevés et des fréquences d'achat plus rapides. Donc il faut repenser les systèmes promotionnels.
Merci Yves Puget. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de Libre Service Actu. Ça se dit LSA. C'est un magazine référence de l'actualité économique et de la consommation en France. Merci d'avoir été avec nous dans la matinale d'Europe 1 ce week-end.
Merci à vous.
Europe Matin Weekend. Raphaël Delvolvé.
Dans quelques instants, un nouveau journal. On va respirer avant cela.
Europe Matin Weekend.
Raphaël Delvolvé.
L'heure d'un nouveau journal avec Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Week-end de l'Ascension rallongé, l'occasion d'une virée à la mer pour certains touristes. Nous les avons rencontrés à Pornichet.
Vladimir Poutine face aux contestations alors que son armée intensifie ses frappes dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine.
Et puis on partira à Roland-Garros, totalement sous le charme du jeune Français Hugo Gaston.
Et puis c'est à suivre dans la prochaine demi-heure la drôle de rencontre de Naïma Benchemann avec la chanteuse Oshi, et puis la balade du samedi, Marion Sauveur et Vanessa Zah nous emmènent en Italie pour une escapade sur la côte amalfitaine. Et puis nous irons déguster l'incontournable bonbon boule. Mais avant cela, la tendance météo, Valérie Darmon.
Du beau temps, sans bémol, presque partout depuis Caen jusque sur Marseille. Le ciel est un peu plus nuageux entre Lille et Paris. Et ce matin, à cause des brumes, sur les Landes aussi.
C'est bien noté, météo complète à la fin de ce journal. Et on vient de l'entendre, le ciel est gris sur une partie de la France pour ce week-end de l'Ascension. Mais ça n'empêche pas les touristes d'être au rendez-vous.
Oui, certains en profitent pour mettre les voiles. Direction la mer, exemple à Pornichet où il y a beaucoup de monde. Reportage de Charles Guyard.
À l'entrée du marché de Pornichet, Mathias ouvre les huîtres à toute allure.
Oh là, j'en ouvre à une cinquantaine à peu près. Oh, entre midi et midi et demi, avant on n'a pas le temps.
Ça, c'est du 4. En moyenne, ce qui est plus demandé, c'est plutôt le numéro 3.
Du 4, du 3, de la Creuse, de la Plate. Bref, les huîtres partent à toute vitesse et pour cause.
Ce week-end, il y a pas mal de monde. Ouais. Il y a le pont.
Un pont est même le seul de ce mois de mai. Alors forcément, on en profite comme Patrick. Arrivé de Paris, il vient prendre sa dose d'iode jusqu'à dimanche.
Eh ben, écoutez, on a pris des huîtres de l'Armor Baden, des numéros 2, des grosses.
C'est quoi le programme d'ici dimanche?
C'est de se faire plaisir, se balader, etc.
Balade, fruits de mer donc et plage pour beaucoup. Voilà la combinaison gagnante du week-end. Florilège à la terrasse de ce café.
Nous avons fait beaucoup de vélo.
Moules frites et puis autres divertissements.
Aller à la mer.
On est en famille.
Malgré un soleil qui n'était pas radieux, nous avons passé un très très bon moment.
Et malgré un ciel un peu grisonnant, c'est vrai, le moral lui reste au beau fixe. Quant aux huîtres, avis aux amateurs, avec cette forte affluence, il ne faut pas traîner pour les acheter et surtout pour les déguster.
Une fois ouverte, si c'est mis au frigo directement, ça peut être mangé dans les 12 heures.
Pour Nicher, Charles Guyard, Europe 1.
Et pas de week-end prolongé en revanche pour les candidats aux élections législatives.
Et certainement pas dans le Var et le Vaucluse où le RN et Reconquête continuent de s'affronter frontalement. Éric Zemmour se rendra à Carpentras aujourd'hui dans un meeting en soutien au porte-parole de son parti, Stanislas Rigaud.
En Ukraine, l'armée de Vladimir Poutine n'avance plus alors qu'en Russie, des voix s'élèvent contre la guerre.
Oui, sur le terrain, les forces russes concentrent désormais leurs tirs sur le Donbass à l'est, des attaques que ne tolère plus la branche moscovite de l'église orthodoxe ukrainienne. Elle a coupé les ponts avec les autorités spirituelles russes, pro-Poutine. Autre opposition publique au sein même du parti communiste russe dans la région de Primorie. Un élu a réclamé la fin de la guerre en pleine assemblée locale. Une scène rarissime diffusée en direct sur Internet, Guillaume Dominguez.
Oui, on y voit Leonid Vassiukevitch, membre du parti communiste russe, fervent soutien de Vladimir Poutine, demander la parole en plein hémicycle. Il prétend vouloir revenir sur des décisions prises plus tôt dans la semaine.
Il y a quelques jours, l'Assemblée a adopté une série de mesures de soutien aux familles des soldats morts pendant l'opération militaire. Nous comprenons que si notre pays ne cesse pas l'opération de guerre, il y aura de plus en plus d'orphelins.
À l'annonce du mot « guerre », le gouverneur de la région tente de censurer l'élu et ordonne de couper son micro. Leonid Vassiukevitch se met alors debout et s'adresse directement au gouvernement fédéral pour demander la fin de l'offensive en Ukraine.
Au cours de l'opération militaire, des gens finissent invalides. Ce sont des jeunes gens qui pourraient apporter beaucoup à notre pays. Nous exigeons un retrait immédiat des troupes russes.
Une déclaration soutenue par quelques applaudissements, mais immédiatement sanctionnée. L'élu est privé de son droit de vote. Le chef du groupe communiste à l'Assemblée a promis des mesures de représailles extrêmement fermes. En Russie, toute personne reconnue coupable d'avoir, je cite, « discrédité l'armée russe » encourt une peine allant jusqu'à 15 ans de prison ferme.
Les explications de Guillaume Dominguez.
Aux États-Unis, maintenant, trois jours après la tuerie d'Uvalde, au Texas, le lobby pro-armes se réunissait cette nuit à Houston.
Rassemblement de la NRA à quelques centaines de kilomètres des lieux du drame, avec un invité très attendu, l'ancien président Donald Trump. Il a appelé à armer les citoyens pour, je cite, combattre le mal dans notre société. La police texane a quant à elle reconnu une mauvaise décision. Elle a attendu plus d'une heure avant d'intervenir le jour de l'attaque. 19 enfants sont morts sous les balles d'un tireur de 18 ans dans une école élémentaire.
On passe au sport avec un samedi chargé, Victor.
Hier en rugby, Lyon s'est imposé contre le RC Toulon en finale du Challenge européen. Le dénouement de la plus grande coupe européenne en rugby, ce sera en fin d'après-midi. La Rochelle défie Leinster. Soir de finale aussi en foot avec la Ligue des Champions. Les Madrilènes de Karim Benzema affrontent les Reds de Liverpool. Près de 100 000 supporters sont attendus dans la capitale. Coup d'envoi à 21h et au petit jeu des pronostics. Chacun y va de son avis. Écoutez plutôt celui d'un champion du monde, Olivier Giroud, l'attaquant du Milan AC, au micro de Cyril de la Morinerie.
Je pense que avec ce qu'a démontré le Real Madrid contre le PSG, puis Chelsea, puis City, au-delà de leur potentiel, de leur qualité sur le terrain, ils ont montré un extraordinaire esprit d'équipe, de combativité, de résilience, toujours y croire. Ils ont des ressources mentales extraordinaires, donc j'imagine que s'ils ont encore cette réussite et cette abnégation, ils auront peut-être un avantage. Maintenant, Liverpool, voilà, ils jouent leur troisième finale de Ligue des Champions en 5 ans. C'est une très grande équipe qui a l'habitude de ces rendez-vous-là. Donc, ce sera un combat très serré, j'imagine.
Olivier Giroud, invité d'Europe 1 Sport hier soir.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, suite et fin du troisième tour aujourd'hui, Porte d'Auteuil.
Oui, hier, le nouveau phénomène espagnol Carlos Alcaraz s'est imposé facilement en 3-7. Des Français sur les courts aujourd'hui, ils sont 4 à pouvoir encore rêver des huitièmes de finale, 2 chez les femmes et 2 chez les hommes, dont le jeune Hugo Gaston. Il affronte le Danois Rune. À 21 ans seulement, il est le nouveau chouchou du tennis français. Depuis son huitième de finale à Roland-Garros il y a 2 ans, le Toulousain a débuté une véritable histoire d'amour avec le public parisien, Axel May.
Hugo Gaston !
Les Hugo criés en chœur par le public parisien ont rythmé ses 2 premiers matchs. Le jeune Toulousain, au tennis imprévisible, roi des amortis, excellent défenseur, joue avec les spectateurs, harangue la foule quand il est sur le terrain et sa notoriété grandit.
Ça m'arrive de me faire arrêter après les entraînements forcément, après de temps en temps quand je suis dans les allées, même si je suis très peu. Il suffit qu'il y ait une personne qui demande pour qu'il y ait du monde derrière, mais ça fait aussi plaisir et j'aime prendre du temps pour ça aussi.
C'est une sorte de gastomania un peu ?
Non, du tout, c'est juste que ça fait partie de moi d'être comme ça, mais gastomania peut-être, comme vous voulez.
Cette love story avec Roland Garros est pourtant née lors de l'édition 2020, jouée à huis clos, en plein Covid, sous la grisaille de l'automne. Bénéficiaire d'une invitation, Hugo Gaston est cette année-là le seul Français à atteindre les huitièmes de finale. Désormais dans le top 100 mondial, Gaston n'a pas eu besoin cette fois d'invitation pour disputer les internationaux de France, Porte d'Auteuil, et ce soir, il aura le public du cours central derrière lui pour crier, pour hurler des Hugo d'encouragement.
Axel May du service des sports d'Europe 1 et on fait le point tout à l'heure dans le journal de 7h30 sur tous les matchs de Roland-Garros.
Merci Victor Pourchet, la météo, Valérie Darmon, à quoi ressemble le ciel aujourd'hui ?
Un ciel bleu sur Roland-Garros, évidemment, et un dégradé de bleu et de jaune pour nous tous. En Bretagne et en Normandie, sur les Hauts-de-France, le bassin parisien, le Grand Est, un ciel dégagé qui s'impose avec un soleil généreux dès ce matin. Un vent de nord-nord-est entre 30 et 50 km/h sur le littoral de la façade ouest. Les maximales qui sont en revanche un petit peu faiblardes avec seulement 14 à 17, alors qu'au sud de la Bretagne, par exemple, les valeurs vont atteindre 22 degrés. En centre-Val de Loire, Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, donc sur le sud, le soleil qui brille du matin jusqu'au soir, le vent qui souffle en rafale en vallée du Rhône entre 70 et 80 km/h, les températures maximales qui vont atteindre 27, repassant au-dessus des normales. Et puis en PACA et en Corse, le temps qui est chaud et donc les orages qui vont éclater en montagne.
Et du côté des températures, ça donne quoi, Valérie ?
Alors par exemple, les minimales entre 3 à Charleville-Mézières et 21 à Nice, 5 annoncés à Reims, 7 à 3, 8 à Saint-Brieuc, 9 degrés à La Roche-sur-Yon, 10 à Paris, 11 à Embrun, 12 à Manosque, 14 à Carcassonne, 18 à Nîmes et 20 degrés à Perpignan.
Les couleurs du ciel avec Valérie Darmon. Merci Valérie. Notre invité à 7h10 aujourd'hui, le médecin urgentiste Patrick Peloux. Nous parlerons avec lui de la crise des urgences. De nombreux services sont contraints de fermer la nuit, faute de personnel. Ce sera donc après le journal de 7h. Mais avant cela, rencontre avec une chanteuse d'exception.
Europe Matin Weekend.
Raphaël Delvolvé.
Et oui, Naïma Benchemann rencontre aujourd'hui Oshi, l'interprète de Tamarinière. Et peut-être ne le saviez-vous pas, atteinte de surdité et pourtant elle chante, elle fait même une grande tournée de concerts cette année. Naïma, vous l'avez rencontrée au Parc Montsouris à Paris.
J'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille oh, la belle étoile.
Bonjour Oshi.
Bonjour.
Drôle d'endroit pour une rencontre. Je vous remercie de m'avoir donné rendez-vous au Parc Montsouris dans le 14e arrondissement de Paris. Vous, l'auteur, compositrice, interprète, nommée dans la catégorie artiste féminine aux Victoires de la Musique. Vous, qu'on surnomme la nouvelle étoile de la chanson française, en référence à votre nom de scène qui signifie l'étoile en japonais, c'est ici, dans ce parc, que vous venez écrire, puiser l'inspiration pour vos chansons. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cet endroit ?
Eh ben je trouve que c'est un bel endroit. J'aime bien déjà les parcs dans Paris, ça fait du bien. Parce que forcément, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a pas mal, mais c'est vrai qu'on est souvent dans la ville, dans le feu de l'action, tout ça. Et du coup, ici, je trouve un peu de calme. Et je trouve de l'inspiration. Je sais pas, c'est la nature finalement dans Paris. Et j'aime bien cet endroit. Et puis je peux promener mon chien en plus, donc c'est, doublement cool.
Qui nous accompagne d'ailleurs. Complètement, il est juste là. Oshi, vous faites actuellement la tournée des Zéniths en France, une vraie consécration pour la jeune artiste que vous êtes. Et avec cette tournée, vous portez les 27 titres de Étoile Flippante, un titre poétiquement paradoxal qui vous ressemble beaucoup, Oshi, parce que l'art du paradoxe, vous le cultivez depuis vos débuts. Et si vos musiques sont entraînantes, vos textes, parfois ils sont plus sombres, plus profonds, parfois à la limite du désabusé.
Peur du vide et de l'espace, parfois l'avenir me désenchante. On m'examine, qu'on me remplace de devenir une étoile filante.
Bah, je suis désabusée. Hein.
depuis toujours,
je pense, depuis que je connais ce mot. Depuis que j'ai pu mettre un mot sur ce que je suis. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un de désabusé. Et puis j'aime bien ce paradoxe, justement, de mettre des textes un peu sombres sur des prods un peu dansantes. J'aime bien quand les gens dansent un peu sur la tristesse. Je trouve ça beau, ça rend poétique, finalement, le malheur, je trouve.
Les fleurs du mal.
Ouais, un peu.
Aussi, nous sommes, je le rappelle, au Parc Montsouris. C'est ici que vous venez vous ressourcer, dans ce havre de tranquillité, comme vous me le disiez. Et j'aimerais qu'on s'attarde un instant sur les belles rencontres qui existent sur Étoile Flippante, car tous ces duos que vous offrez, que vous nous offrez, Benjamin Biolay, Gaëtan Roussel, vous aimez par-dessus tout aller vers l'autre, vous ouvrir à d'autres univers pour enrichir le vôtre. Et tout ça, c'est à votre image dans la vie, l'incarnation d'un esprit de tolérance et d'un esprit libre.
Je sais pas comment je vais faire.
Bah, c'est vrai que j'aime bien ouvrir mon univers à d'autres parce que je pense que mon univers a la place pour d'autres. En fait, c'est vraiment. Je dis souvent même que quand j'ai un projet solo, mais je suis tellement entourée, il y a plein de gens dans l'ombre qui mériteraient d'ailleurs d'être dans la lumière, qu'en fait, finalement, ça fait un espèce d'univers que je partage. Et c'est vrai que à chaque fois, je veux le partager par contre avec des gens qui ça va pas être fake en fait, ouais. Ça va être vrai. Ça va être un vrai partage, une vraie humanité, un vrai moment de partage. Ouais, c'est important pour moi et j'ai du mal avec les duos préconçus, tout ça. Ça arrive, ça n'est jamais.
C'est des rencontres du cœur.
C'est que des rencontres du cœur et Benjamin Biolay, ouais, dernièrement, et ce que j'aime beaucoup.
S'offrira à boire pour battre notre peur du soir. On se racontera nos histoires à couler au comptoir.
Et après, je t'aimerai, je te pardonne, fais-moi signe. Les titres de vos chansons sont très révélateurs d'une personnalité multiple qui se nourrit aussi de ses failles pour transcender sa créativité. Vous avez beau être très jeune, vous avez pourtant peur de la mort, du temps qui passe, mais tous ces démons, toutes ces angoisses, grâce à la musique, vous essayez d'en guérir aussi.
Je crois que j'essaye même pas d'en guérir, ça me guérit vraiment. En fait,
c'est une vraie thérapie. En fait.
C'est une thérapie vraiment. D'ailleurs, je suis jamais allée chez le psy, alors que je pense que parfois j'en ai ressenti le besoin, mais ouais. J'ai fait des chansons à la place.
Face à toute cette foire, je crois que j'ai tout foiré. Explique-moi la gloire, moi j'ai rien capté. Être sur scène chaque soir, c'est ma thérapie. Où sont vos
C'est vrai que ça me guérit, ça me fait du bien,
ça exorcise vos démons. En fait.
Je peux crier en fait à un endroit en fait, pas chez moi, oui. De manière solitaire à hurler, à passer pour une folle. Je peux le faire en musique,
en public avec les gens qui crient avec vous.
Donc ça rend le truc moins chelou et surtout plus
on
se sent moins seul et puis ça fait du bien vraiment. Je me vide quoi complètement et puis ça me permet aussi de parfois justement exorciser des choses. Donc j'avais même pas conscience parfois. Donc ça me fait vraiment réfléchir sur moi-même aussi.
Aussi, on se trouve dans un endroit où vous arrivez mieux qu'ailleurs à coucher, comme vous venez de me le dire, sur le papier des mots, sur vos mots. Ce rêve d'être sur le devant de la scène, il arrive chez vous dès l'enfance. Mathilde Gernet, de votre vrai nom. Vous grandissez dans une famille de mélomanes, un papa fan des Sex Pistols, une maman à fond sur Véronique Sanson et des grands-parents qui, en toile de fond, vous font découvrir Jacques Brel. Bref, un vrai foisonnement qui vous a biberonné au chi depuis toujours.
Ah ouais, c'est vrai que mon père, c'est un ancien punk. Ma mère, elle adore la variété française plus moderne. Voilà. Et mes grands-parents, c'était vraiment Brel, Brassens et tout ça.
C'est dans les épreuves que vous avez grandi, dans l'adversité que vous vous êtes construite. Avec vous, Oshi, il suffit d'y croire, c'est marche ou rêve.
Ouais, ouais, c'est clair. C'est aussi marche ou crève, hein, du coup.
Vous réalisez en ce moment une tournée des Zéniths et c'est pas rien. S'il y en a une qui doit être fière, c'est votre babouchka, votre mamie, avec qui sur votre dernier album vous chantez votre plus belle histoire d'amour à vous, et c'est peu dire.
Ouais, c'est vraiment ma plus belle histoire de vie même, ouais, au-delà de l'amour, c'est vraiment toute ma vie.
Parle-moi de ton ancien temps, celui qui fait ce que t'es maintenant.
C'est la personne que j'aime le plus au monde, franchement.
Une vraie belle histoire d'amour.
Ouais, c'est hyper sincère en plus. Enfin, c'est, y a pas...
On sent dans vos yeux, on sent l'émotion de
toute
façon.
Tout le temps à chaque fois.
Merci Oshi de ce drôle d'endroit pour une rencontre au parc Montsouris. Il était une fois une toit qui s'amusait de nos jeux amoureux. Une étoile flippante qui défiait l'amour censure à coups de « fais-moi signe et je te pardonne ». Merci infiniment, Oshi, de vos
mots. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Alors ce soir, ma poupée et ce refrain est pour toi. Dans ton histoire, il y a des plus pas que des moins babouchka. Et dit à trouver son
Vous entendez l'exceptionnelle Oshi, chanteuse sourde, et interrogée donc par Naïma Benchemann cette semaine. Tout de suite, l'Info Express, le journal permanent. Victor Pourchet.
Europe Matin Weekend, Raphaël Delvolvé.
Qui remportera la Palme d'Or ? C'est ce soir que se clôt la 75e édition du Festival de Cannes. Au programme de la cérémonie, la révélation du palmarès. Parmi les favoris, Tori et Lokita des frères Dardenne, Klaus de Lucas Dont ou encore RMN du réalisateur roumain Christian Mungiu. Loin des paillettes et en plein affrontement judiciaire, la star américaine Johnny Depp pourrait bien être fixée sur son sort dans les prochaines heures. Le jury s'est retiré dans le procès qu'il oppose à son ex-compagne, l'actrice Amber Heard. Johnny Depp la poursuit pour diffamation après qu'elle a déclaré être une personnalité publique représentant les violences conjugales. Donald Trump, invité d'honneur de la NRA, le lobby pro-armes aux États-Unis, trois jours après la tuerie dans une école d'Uvalde au Texas et devant une foule de supporters, l'ancien président a appelé à armer les citoyens pour combattre le mal dans notre société. Suite de la bataille électorale entre le Rassemblement national et Reconquête dans le Sud-Est, alors qu'il fait déjà face au RN dans sa circonscription du Var, Éric Zemmour sera aujourd'hui au meeting de son porte-parole Stanislas Rigaud à Carpentras dans le Vaucluse. En sport et en tennis, suite de Roland-Garros et de son troisième tour, quatre Français en lice aujourd'hui. Chez les femmes, Léolia Jean-Jean affronte la Roumaine Begu, Alizé Cornet la Chinoise Zeng. Chez les hommes, Gilles Simon fera face au Croate Cilic. Quant au jeune Hugo Gaston, ce sera le Danois Rooney.
Merci Victor Pourchet. Dans quelques instants sur Europe 1, vos escapades week-end.
Europe 1, le grand rendez-vous. Sonia Mabrouk.
Demain, notre invité, Henri Guénaud. Sa tribune sur la guerre en Ukraine a provoqué une avalanche de réactions. Il dénonce le manque d'initiative en faveur de la paix et une marche vers la guerre totale.
Europe 1, 10h-11h, le grand rendez-vous. Avec Les Échos et CNews.
L'ancien conseiller politique Henri Guénaud est notre invité demain sur Europe 1 et CNews.
Banque coopérative, la Caisse d'épargne Île-de-France, ce sont 5000 femmes et hommes qui œuvrent au quotidien pour accompagner leurs clients et développer une économie durable. Jour après jour, la Caisse d'épargne Île-de-France poursuit sa mission, agir dans l'intérêt collectif et être utile à chacun. La Caisse d'épargne Île-de-France, une banque responsable, engagée au service de sa région.
Amplifon présente, bien entendre pour mieux comprendre.
Papy, papy.
Oui, ma chérie.
Tu prends pas d'épinards.
Ne t'inquiète pas, il y a plein d'autres choses que tu vas aimer.
Super.
Grâce à ses aides auditives Ampli Énergie Intelligente, une exclusivité Amplifon, Marc ne rate aucun détail de ses conversations. Vous aussi, prenez soin de votre audition. Bénéficiez du 100% santé et de notre accompagnement à 100%. Prenez rendez-vous sur amplifon.fr. Dispositif médical CE. L'offre 100% santé résulte d'une obligation légale. Demandez conseil à votre audioprothésiste.
Aujourd'hui, chez Conforama, on pense à ceux qui manquent de place dans leur chambre.
Avec le lit Aston 140 cm et son coffre de rangement intégré à moins 40%, soit 229,51€.
Et hop, tout est rangé. Conforama. Jusqu'au 6 juin, conditions sur Conforama.fr.
Leclerc.
Oh, c'est quoi ces belles roses dans ton panier ?
C'est pour ma maman, pour la fête des mères.
Oh bah, c'est pas mes enfants qui m'offriraient des roses à moi.
Pourquoi ? C'est juste 5,25€ le bouquet de 20 roses de 40 cm. Mais ils ont de l'argent de poche, non ?
5,25€ le bouquet ? Mais t'as raison, je les appelle. Allô, mon biquette, tu sais que dimanche, c'est la fête des mères. Et tu te souviens que t'as une mère. Alors écoute-moi bien.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc.
Du 27 au 29 mai, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Europe Matin Weekend.
Raphaël Delvolvé.
Bon week-end à tous sur Europe 1, vos escapades, c'est tout de suite. Bonjour Marion Sauveur, bonjour Vanessa Zah.
Bonjour.
Et on commence avec vous Vanessa, en ce week-end de l'Ascension. Ça sent déjà l'été, la Dolce Vita je dirais même. Nous allons en Italie pour une escapade sur la côte amalfitaine.
Est-ce que vous êtes prêts à enfourcher votre Vespa ?
Allez, c'est parti.
Bien sûr. Allez, c'est parti. On prend la direction de la péninsule de Sorrento, pour être plus précise. En fait, on est tout à l'ouest de cette fameuse côte amalfitaine, beaucoup moins fréquentée en fait que le reste de la côte, parce que évidemment, il y a tous ces sublimes villages perchés de Positano, Amalfi, Ravello, qui font rêver, qui sont incontournables, mais il faut les éviter en plein été, parce qu'en fait, il n'y a qu'une route sinueuse qui les dessert, et donc c'est hyper chargé. Sous la chaleur, c'est pas top. Et c'est justement pour ça que moi j'aime bien Sorrento, qui est beaucoup moins encombré. Ce qui est agréable sur cette péninsule, c'est que vous surplombez la baie de Naples. Donc en toile de fond, vous avez Naples, le Vésuve, Pompéi. Mais le panorama est encore plus grand puisque vous avez une vue sur les îles de Capri, Ischia et Procida. Et ça, c'est une des plus belles vues de la côte, surtout pour le coucher de soleil.
Alors, il faut mettre son camp de base à Sorrento, si j'ai bien compris. Comme ça, on est au centre de tout.
Oui, parce qu'on peut filer du port en bateau-navette jusqu'à Naples, ça prend un peu moins d'une heure, à Capri, puis sur le reste de la côte amalfitaine. Donc c'est idéal, c'est central. Côté culturel, historique, ben, Sorrento, ça vaut aussi le détour. Pourquoi ? Parce qu'il y a des ruelles, des anciennes maisons très bien entretenues, contrairement à Naples, qui ont beaucoup de cachets. Vous avez des ateliers de marqueterie à chaque coin de rue, parce que figurez-vous que Sorrento est un des berceaux de ce savoir-faire depuis 600 ans. Un musée lui est même dédié. Un de ses restaurants a inventé les cannelloni, qui s'appelle le O Parrucciano la Favoretta. Mmh. En plus, ça a beaucoup de charme parce que vous déjeunez, dînez sous une pergola. Et puis, je gardais le meilleur pour la fin. Parce que l'atmosphère, elle est encore baignée par la présence de tous ces artistes, ces intellectuels romantiques qui sont passés, qui venaient se réfugier dans le mythique grand hôtel Excelsior Vittoria, tenu par la même famille depuis 1834 et qui a été le lieu de villégiature de... Est-ce que vous avez reconnu cette voix ?
Ah, je dis magnifique, oui. Et je ne sais pas qui c'est. C'est un chanteur d'opéra, mais lequel ?
Et ben Enrico Caruso, qui a passé à la fin de sa vie. Wagner, lui aussi, est venu finir son opéra Parsifal. La princesse Margaret, qui avait même sa chambre, comme Pavarotti. Cette chambre, d'ailleurs, vous pouvez y dormir, évidemment. C'est Luca Fiorentino, qui a 26 ans, qui incarne la sixième génération de la famille, qui vous ouvre ses portes.
La chambre de Pavarotti est vraiment grande, comme il était. Vraiment grand. Classique, il a une belle, belle vue sur la mer. Et il est décoré maintenant avec ceux qui sont les objets de Pavarotti personnels. On a le foulard de Pavarotti qu'il avait toujours dans les mains quand il chantait, et puis aussi des clous qu'il a trouvés quand il était en train d'aller à faire une opéra, et il a trouvé ses clous sur le théâtre, et il a pris les clous pour Scaramanzi.
Voilà, par superstition, donc vous avez compris. Voilà, donc vous pouvez y dormir, évidemment, dans cet hôtel historique inspirant. Mais quand vous êtes de passage aussi, vous pouvez simplement aller prendre un apéritif sur la terrasse au soleil couchant. Vous pouvez aussi dîner dans ce restaurant, une étoile au Michelin. Ce qui est génial, c'est que le chef Antonio Montefusco organise aussi des ateliers de cuisine. Vous serez les rois après des gnocchi à la Sorrentina.
Escapade sur la côte amalfitaine, Vanessa Zah nous prend la main tous les week-ends. Merci Vanessa. Marion Sauveur, vous nous emmenez à Paris, vous.
Et oui, j'avais envie de remonter un petit peu le temps avec vous. Je vous emmène ce samedi au 19e siècle, place de l'Opéra Garnier. Pour déguster des bonbons boules, ces jolies billes lisses aux fruits ou aux fleurs, je vous laisse choisir. Hein, et y a,
alors,
y a
je
quoi
prends
faire.
Un rouge.
Bah, voilà. Très bien, des gourmandises qui sont... imaginé à l'époque par le confiseur originaire du sud de la France, Bélisaire Boissier, à son arrivée dans la capitale. On est au tout début donc, du 19e siècle, comme nous le raconte Valérie Trollet de la maison Boissier.
Montant à Paris, il a souhaité créer un bonbon parisien, qui soit dans le thème des fleurs ou des fruits. Et de cette idée, il a découvert les cerisiers de Montmorency, desquels il en a extrait un jus. Ce jus mélangé à du sucre et à de l'eau a donné le bonbon boule à la cerise. Pourquoi boule ? Tout simplement parce que Paris est rond. Et donc il voulait vraiment que ce soit le bonbon de Paris.
Voilà, et vous avez d'abord un bonbon à la cerise.
Oui, j'ai pris.
Ensuite, depuis 1827, d'autres parfums sont nés. Citron, citron vert, orange, myrtille, rose, violette et coquelicot. Des bonbons qui sont peu sucrés, réalisés de façon artisanale. Ces bonbons boules sont vendus dans de jolis écrins. Alors, il faut imaginer qu'ils étaient les stars des entractes à l'opéra, positionnés dans de très belles boîtes, ornées de peinture vendue dans des sacs en soie. Aujourd'hui, ces bonbons boules sont toujours disposés à la main dans de jolies boîtes métalliques. De quoi faire peut-être un joli cadeau de fête des mères si vous n'en aviez pas pour demain.
Ah oui, oui, je connais une maman en plus à qui ça fera très plaisir. Ah, tiens, Vanessa, prenez-en un. Tiens, voilà. Voilà, et la recette, c'est toujours la même, ça n'a pas changé. Hein.
Alors, ça n'a pas changé. Ce sont toujours des arômes de fruits ou de fleurs qui sont mélangés avec du sucre et de l'eau. Ensuite, cuits au four pour donner ce côté dur. On vous a entendu croquer dans ce bonbon tout à l'heure. Par contre, la taille des bonbons a évolué du temps de Bélisaire-Boissier. C'était de gros bonbons boules. Aujourd'hui, ils sont un petit peu plus petits, ce qui permet d'ailleurs aux plus gourmands de goûter à tous les parfums.
Et comment est-ce qu'on cuisine ces bonbons boules ?
Alors moi, je vous propose un petit cheesecake pour aujourd'hui aux brisures de bonbons. Alors on va commencer par concasser des biscuits avant de les mélanger avec du beurre fondu et de les mettre au fond du moule. Ça, c'est notre fond de tarte. On mélange ensuite le fromage frais, la crème fraîche, les grains d'une mousse de vanille, le sucre, les œufs, un peu de fécule de maïs. On dispose ce mélange sur les biscuits bien passés. Direction le four, une quarantaine de minutes. Il ne faut pas que le cheesecake soit trop cuit. Ensuite, on le laisse refroidir 2 heures au frigo, c'est l'idéal. Et on réalise là nos brisures de bonbons. Vous mixez vos bonbons en choisissant bien sûr le parfum de votre choix, par exemple aux agrumes. Donc citron, citron vert, orange, on ne mixe pas trop, hein, faut que ça reste des brisures. Vous pouvez ajouter quelques petites zestes d'agrumes et vous disposez vos brisures de bonbons sur votre cheesecake juste avant de servir. Et vous verrez, ça en surprendra plus d'un.
Merci, la recette du cheesecake aux brisures de bonbons boules de Paris.
Mais oui.
C'est signé Marion Sauveur. Vous pouvez vous y mettre, vous aussi, à la recette. Hein, c'est à retrouver sur notre site www.europe1.fr. Et toutes nos balades week-end sont évidemment à réécouter sur la même plateforme. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Bon week-end à tous.
À demain.
Europe 1, il est 7h, bon réveil à tous, bon courage à celles et ceux qui travaillent, on pense bien à vous.
Europe Matin Weekend,
Raphaël Delvolvé.
Voici un nouveau journal avec Johan Tritz. Bonjour Johan.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. La campagne pour les législatives avec cette guerre entre le RN et Reconquête. Première bataille dans le sud à Saint-Tropez. Fief d'Éric Zemmour, le récit de notre envoyé spécial dans ce journal.
Nous irons également aux États-Unis 3 jours après la fusillade dans une école primaire du Texas. Donald Trump a tenu un discours au congrès de la NRA, le lobby pro-armes.
Liverpool-Real Madrid, l'affiche de la finale de la Ligue des Champions, Stade de France. Europe 1 va vous faire vivre le match ce soir. Mais avant ça, on a suivi des supporters déjà très très chauds avant la rencontre.
Et puis c'est à suivre dans la prochaine demi-heure l'interview de Patrick Peloux, président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Et puis Mathieu Alterman nous parle de ces Français qui ne sont pas prophètes en leur pays. Ils sont artistes, ils ont cartonné à l'étranger, mais jamais chez nous. Ce sera tout à l'heure. La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, moi, je vous prédis des maximales entre 16 au Havre et 32 à Toulon, avec du soleil partout et des nuages de passage sur la façade est.
Merci Valérie. Météo complète à la fin du journal. Rapidité, efficacité et résultat, les 3 mots d'ordre d'Elisabeth Borne.
Oui, la nouvelle chef du gouvernement qui a donné sa feuille de route à ses ministres hier. 3 priorités, le pouvoir d'achat, la santé et le climat. Elisabeth Borne qui va ensuite reprendre le chemin de la campagne. Elle est candidate pour les législatives dans le Calvados, en Normandie.
Très loin d'une bataille acharnée dans le sud de la France où le Rassemblement National combat Reconquête.
Et oui, le premier round avait lieu hier avec le déplacement de Jordan Bardella, patron du RN à Saint-Tropez. Sur les terres d'Éric Zemmour, Victor Chabert a pu suivre cette joute entre les deux partis d'extrême droite.
Alors, je suis venu aujourd'hui soutenir Philippe Lothiaux, qui est notre candidat.
Un soleil de plomb sur le marché de Sainte-Maxime. Jordan Bardella est accompagné de son candidat, Philippe Lothiaux, qui fait notamment face à Éric Zemmour. Pour le président du RN, le fondateur de Reconquête crée de la division dans une circonscription où le parti de Marine Le Pen fait de gros scores.
Je respecte Éric Zemmour, mais je regrette qu'il vienne... participer d'une forme de division, parce que la vérité, c'est que s'il n'y a pas de candidat Reconquête dans beaucoup de circonscriptions, nos candidats arrivent en tête dès le premier tour.
Cette visite de Jordan Bardella ne passe pas chez Reconquête. Quelques heures plus tard, Éric Zemmour, en campagne dans l'arrière-pays varois, répond à Jordan Bardella en exclusivité au micro d'Europe 1.
Je remarque que Jordan Bardella, en tant que président du Rassemblement National,
ne trouvent qu'une seule chose à faire, c'est venir me combattre moi, alors qu'ils pourraient affronter les sortants de la majorité d'Emmanuel Macron ou les candidats de Jean-Luc Mélenchon et de ses alliés.
La bataille fait rage dans cette circonscription, mais Éric Zemmour et Jordan Bardella sont d'accord sur un point. Celui qui sera devant le soir du premier tour devra rassembler.
Victor Chabert à Saint-Tropez pour Europe 1.
Direction les États-Unis avec cette prise de parole très attendue de Donald Trump au congrès de la NRA à Houston, au Texas.
À quelques heures seulement de route du drame d'Uvalde, cette fusillade qui a fait 22 morts dans une école primaire. L'ancien président des États-Unis qui a tenu un discours alors que de nombreuses manifestations ont lieu à Houston, ville où se trouve Avida Fried pour Europe 1.
Honte à vous, crient les manifestants rassemblés à Houston en réponse au congrès de la NRA. Il fait 35 degrés ici, mais cela n'a pas dissuadé les centaines de personnes qui sont là. Bambi Brown est venue en mémoire de Kimberly, une petite fille tuée il y a 4 ans dans le massacre d'une autre école du Texas.
Je pensais qu'on aurait fait quelque chose depuis le temps. Rien n'a été fait. Ça me fait mal au cœur, ça me fait mal à l'âme que des enfants continuent de mourir.
La police tient à distance les deux camps. La tension est vive. À chaque fois qu'un membre de la NRA sort du centre de congrès, les manifestants le huent.
Donald J. Trump.
Pendant ce temps à l'intérieur, la star du show, c'est Donald Trump. Après avoir lu le nom des victimes de la tuerie d'Uvalde,
Aletha Ramirez.
Il multiplie les attaques contre les démocrates et Joe Biden. Des contre-vérités assénées pour séduire son auditoire.
Il paraît que l'administration Biden envisage de livrer la responsabilité de votre deuxième amendement à des bureaucrates de l'ONU.
Les armes à feu comme argument électoral, une politisation qui empêche toute vraie réforme. À Houston, Aviva Fried, Europe 1.
C'est également aux États-Unis que ça se passe. Le procès très médiatisé entre Amber Heard et Johnny Depp touche presque à sa fin.
Ouais, les jurés se sont retirés pour délibérer. Si le verdict ne tombe pas aujourd'hui, on ne connaîtra pas le dénouement avant mardi, week-end et jour férié oblige.
Retour en France avec cette question. Mais que fait cet orque dans la Seine?
Vous avez bien entendu, on parle bien d'un animal qui vit habituellement dans les eaux profondes. L'orque a été repéré il y a plusieurs jours en Normandie. Il s'est égaré et tente d'être sauvé par les autorités. Un drone va même être déployé pour le repousser vers la mer. Le point sur la situation, avec Alexandre Garnier, membre de l'Office de la biodiversité.
L'animal n'est pas moribond, mais il est en grande difficulté. Et ces animaux sont protégés dans l'espace français. C'est tout à fait logique que nous y portions assistance. Nous procédons généralement avec un petit bateau à moteur. On s'approche tout doucement. Après avoir observé l'animal pendant une heure à distance, vous imaginez bien les précautions pour ne pas faire du bruit avec le bateau, un bruit qui effrayerait. Eh bien, peu à peu, on incite l'animal à se diriger dans une direction précise. Alors, le cas est compliqué dans la Seine parce qu'on a un trafic fluvial avec des péniches assez fréquentes qui font beaucoup de bruit, donc ça va prendre normalement des jours.
Propos recueillis par Marion Gauthier.
On reste sur les berges de Seine, mais à Paris cette fois, on va pouvoir croiser des supporters espagnols et britanniques.
Bienvenue pour assister à la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. C'est ce soir au Stade de France. 100 000 fans sont attendus dans la capitale et les premiers sont déjà arrivés. Caroline Baudry pour Europe 1 a passé la soirée avec des supporters de Liverpool.
Tu ne marcheras jamais seul. L'hymne et devise de Liverpool a emmené Owen, un Anglais, dans ce bar parisien. Drapeau, maillot, derrière lui du rouge partout qu'il agitera ce soir dans la fan zone.
La dernière fois, le Real nous a battus. Cette fois, on va se venger. On va carrément les battre. On est la meilleure équipe du monde. Sadio Mané va faire la différence. Allez, mec.
Le nom de l'attaquant sénégalais est sur toutes les lèvres. Oli, à peine débarqué de l'avion, fait déjà des pronostics entre deux pintes de bière.
3-1. D'abord Benzema, puis Mané égalise. Un but de Diaz et Mané met le troisième à la 89e. On est là pour boire, faire la fête et gagner la Ligue des Champions pour la 7e fois.
Et sceller un triplé avec la Coupe de la Ligue et la Coupe d'Angleterre remportée par les Rouges de Liverpool cette saison.
Alcool avec modération pour Caroline Baudry. Pour suivre la finale, deux fanzones ont été montées à Saint-Denis et à Vincennes. Ou sinon, il y a Europe 1 pour suivre la finale en intégralité à partir de 20h.
C'est bien noté. Merci Johan Tritz. N'oubliez pas le tennis non plus. Le journal de Roland-Garros, ce sera tout à l'heure après 7h30. La météo, Valérie Darmon. Quel est le programme aujourd'hui ?
Beau temps et de la partie aussi, malgré quelques passages nuageux dans le nord-est, c'est-à-dire en Alsace, Lorraine, Bourgogne, Champagne, Ardennes, sous de vagues ondées, quelques cumulus en montagne cet après-midi, Mistral et Tramontagne qui soufflent modérément en Languedoc-Roussillon. Et après la dissipation de nuages brumeux matinaux sur le Pays Basque, le beau temps revient aussi. Et sur les Alpes du Sud, attention toujours aux orages dans l'après-midi.
Et côté température, Valérie?
On est dans un dégradé nord-sud, à peine de saison au nord de la Loire, notamment sur les Hauts-de-France avec un petit vent de nord-est, mais des températures à nouveau supérieures au normal dans le sud-ouest. La chaleur ne sera pas excessive, avec 25 à 28 au sud de la Garonne et jusqu'à 30-32 dans le sud-est.
Et si on allait voir dans votre petite boule de cristal, qu'est-ce qui nous attend demain, Valérie?
Avec plaisir. Et bien, anticyclone qui n'évolue absolument pas, avec un temps toujours agréablement ensoleillé dans l'ouest et au sud, un tout petit peu plus nuageux sur les régions situées au nord de la Seine.
Comme un parfum d'été. Merci Valérie Darmon, avec nous toute la matinée pour la météo sur Europe 1. À partir de ce soir, les urgences de Saint-Calais dans la Sarthe sont fermées. Voici une illustration de la crise que traversent actuellement les urgences françaises. Une pénurie de médecins urgentistes. Un d'entre eux est avec nous, Patrick Peloux, président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France. On a beaucoup de questions à lui poser. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Raphaël Delvolvé.
Les urgences de Laval vont fermer 5 nuits pendant le mois de juin, faute de personnel suffisant. À Saint-Calais, dans la Sarthe, les urgences seront fermées dès ce soir. Et puis, toujours dans la Sarthe, au Bailleul, accrochez-vous, les urgences pédiatriques de nuit seront tout bonnement fermées pendant 3 mois à partir d'aujourd'hui. En tout, ce sont près de 120 hôpitaux français qui se disent en détresse. Nous en parlons avec Patrick Peloux, célèbre médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Bonjour Patrick Peloux.
Bonjour Europe 1.
Alors, à chaque fois la même cause pour expliquer ces fermetures dans les services d'urgence, des pénuries de personnel. À l'approche de l'été, vous êtes inquiet. Que doit-on craindre ?
Oh, plus qu'inquiet, c'est-à-dire qu'on est dans une vraie crise et c'est dramatique, c'est l'effondrement du système. C'est absolument inquiétant. On peut en citer plein d'autres. En banlieue parisienne, hier, ils ont fermé les urgences pédiatriques de Dourdan. Puis c'est celles de Longjumeau qui se sont fermées. Bref, la seule alternative, c'est d'arriver sur Paris. Donc du coup, vous avez déjà 11 médecins temps plein qui ont démissionné de l'hôpital Necker. Donc vous voyez, même, c'est partout. En fait, c'est pas 120. Je crois que c'est partout. C'est une première. D'habitude, les hôpitaux se débrouillaient pour maintenir la présence d'un médecin aux urgences. Là, c'est la débandade. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que l'État ne respecte pas son engagement vis-à-vis de la population de garantir un accès aux soins sur les urgences, H24. Il ne respecte pas la loi qui dit que toute personne doit être à 30 minutes d'un service d'urgence. C'est un scandale sans nom, en fait.
Et donc, cet été, vous vous attendez à quelle situation en l'état actuel des choses? C'est-à-dire que l'été, traditionnellement, c'est déjà chargé, les urgences?
Ça va être d'autant plus chargé que, évidemment, comme tout le monde, j'hurle sur le réchauffement climatique. Donc, on est pratiquement garanti d'avoir des épisodes caniculaires. Ce qui veut dire que les gens, où est-ce qu'ils vont aller? Nulle part. Les sapeurs-pompiers, quand ils vont intervenir, ils vont devoir faire non plus 10 km pour aller au service des urgences, mais 50. Et les hôpitaux qui vont rester ouverts, c'est le jeu des dominos. Tout va se casser la figure parce que les hôpitaux sont déjà saturés. Donc, ils vont être saturés par l'activité des autres qui sont fermés. Mais surtout, vous preniez l'exemple de Laval, que vont faire les gens de Laval? C'est ça qui est complètement fou. Que vont faire les gens de Bordeaux? Je suis absolument en colère par rapport à ça, parce que vous allez forcément me réinterviewer cet été quand il va y avoir des morts, parce qu'il va y en avoir. Parce que le monsieur ou la dame qui est à Laval, qui va faire son infarctus, personne va venir le chercher. D'accord? Et ce qui fait que ça met la population en danger. Alors, évidemment, on enverra des prompts secours, on enverra le SMUR, on essaiera de faire, de pallier à quelque chose, mais il faut que vous sachiez que même les SMUR sont en train de fermer parce qu'il n'y a plus de médecins. Donc, voilà,
la situation est épouvantable. S'il y a fermeture par endroit, il y a saturation à l'autre.
Ben oui, exactement. C'est complètement fou, vous voyez, c'est fou. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui pilote l'avion des urgences, l'avion de l'hôpital, parce que c'est l'hôpital qui est derrière. Parce que si vous voulez, ça dysfonctionne en ville, on peut pas en vouloir aux médecins de ville parce que ils sont déjà eux aussi avec une démographie qui s'est cassée la figure parce qu'ils ont été incapables, ces universitaires, de prévoir la démographie médicale il y a 10 ans. Et ça fait, et vous pouvez reprendre tout ce qu'on disait. J'étais déjà à votre antenne en 2003 avec la canicule de 2003 et on disait déjà toutes ces difficultés. Donc d'un coup, vous avez une logique politique qui a été de casser le système. Voilà.
Et puis il y a une crise d'attractivité aussi du métier de médecin urgentiste.
Alors, pas que urgentiste, hein, vous savez, par exemple, non, c'est les métiers de médecin, c'est ça qui est absolument fou.
On va en parler tout à l'heure avec nos confrères de Paris Match, hein, le salaire, tout ça rentre en ligne de compte.
Voilà, et si vous voulez, quand ils ont fait le Ségur, ces andouilles, ils font le Ségur, formidable, ils s'intéressent qu'à l'activité programmée, c'est-à-dire je prends rendez-vous pour, etc., c'est très bien, c'est important. Mais ils ont oublié de s'occuper de la permanence de soins, c'est-à-dire les médecins qui travaillent H24. C'est-à-dire les médecins des urgences, les médecins de la réanimation, les chirurgiens, les gynéco-obstétriciens, les personnels qui travaillent la nuit, les week-ends, les jours fériés. Là, ce matin, vous avez des gens qui se sont levés à 4h du matin pour faire tourner l'hôpital. Bon, personne s'y intéresse. Personne n'a valorisé. Les praticiens hospitaliers, quelle que soit leur spécialité, n'ont pas eu de valorisation de l'activité de nuit depuis à peu près une quinzaine d'années. 15 ans. Pendant ce temps-là, le monde libéral a obtenu encore, avec ce qu'ils appellent l'avenant 9 qui est dans le projet de loi de sécurité sociale, une augmentation de la rémunération de leur permanence de soins. Ce qui fait que moi, quand je suis de garde au SAMU, je gagne 240 euros plus mon temps de travail. Eux, ils gagnent à peu près 1005 sur le même temps, défiscalisé 60 jours par an. Voyez, entre 1000 et 1005 la nuit. Donc il y a des inégalités de salaire qui font bondir les gens. Et alors je vous raconte même pas avec les infirmières, parce que vivre dans les grandes villes quand vous avez un salaire qui est en dessous de 2000 euros, eh ben c'est quasiment impossible. D'accord. Donc du coup il y a un problème d'attractivité salariale et puis un management. Le management de l'hôpital date du milieu du XXe siècle. Il est complètement obsolète. Vous avez l'impression, généralement, que c'est les narcissiques pervers qui sont responsables des pôles. C'est absolument insupportable. Cette génération qui a le cerveau vissé sur les tableaux Excel, eh ben, c'est pas ça l'hôpital.
Voilà, alors un problème d'attractivité salariale, managériale, et puis il y a le métier aussi qui est très difficile hein, quand on travaille aux urgences. Hein. Je recentre hein, sur les urgences. On travaille la nuit très souvent. On a affaire à des patients pressés, en détresse, stressés.
Non, mais non, ça sert à rien d'accuser les gens. Les gens, ils font ce qu'on leur dit. C'est-à-dire que les gens, on leur a dit, il y a un service des urgences. Ça s'appelle le vivre ensemble. Ça s'appelle le rôle régalien de l'État. Donc les gens, c'est comme les boîtes aux lettres. On leur dit, voilà, faut mettre la lettre là, ils mettent la lettre là. On leur dit, il y a un service d'urgence, ils y vont. Mais il n'y a plus que ça. Il y a des endroits, il n'y a plus de médecins de ville. Vous avez plus de 1 million ou 1 million 5 de personnes qui n'ont plus de médecins traitants. Maintenant, SOS Médecins, même à Paris, ne va plus dans certains quartiers parce qu'ils préfèrent faire de la téléconsultation. Ça ne satisfait pas la population. Et quand vous avez mal, vous avez mal. Donc d'un coup, la seule alternative, j'ai jamais vu, en 30 ans, j'ai jamais vu quelqu'un aller aux urgences par plaisir. Par nécessité, forcément. Et je vous rappelle que la justice a toujours dit que de toute façon, celui qui estime que c'est urgent, c'est le malade. D'accord? Donc là, leur histoire de trier les gens ou de leur dire, vous appelez le SAMU avant d'aller des urgences, ça fait une sorte de péage. Je vous rappelle qu'ils ont mis un forfait de 60 euros si vous n'êtes pas urgent. Donc les gens maintenant payent de leur poche s'ils viennent aux urgences pour rien. Hein. Ils ont surtaxé le truc, ce que je trouve absolument inique, cynique et totalement anti-républicain. Mais bon, et ils essayent maintenant d'empêcher les gens d'aller aux urgences. Vous voyez, je trouve que c'est profondément une régression par rapport à l'humanité et l'exercice de la médecine d'urgence.
Patrick Peloux, dernière question. Nous sommes en période électorale. Il y a les élections législatives. La santé a été un peu occultée pendant la campagne présidentielle. Le thème revient doucement pendant cette campagne des élections législatives. Je voulais vous faire part de cette proposition soumise par l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Et il rêve d'être Premier ministre, vous le savez. Alors lui, il propose de réquisitionner le privé. C'est aussi un problème de confrontation entre l'hôpital public et l'hôpital privé.
Oui, alors faut surtout pas faire ça, parce que si vous faites ça, ils vont se figer, et ce qu'on voit aujourd'hui, il y a certaines cliniques qui ferment leurs portes là, parce que tout le monde dit c'est génial à Bordeaux, les gens ne viennent plus, voilà. Non, les gens ils viennent, ils rentrent dans les cliniques privées. Donc si jamais on ne cultive pas le travailler ensemble, on n'y arrivera pas. Les réquisitionner, ça sera extrêmement compliqué. Par contre...
Plaider pour la synergie, voilà.
Voilà. Mais par contre, d'obliger à nouveau tout le monde à participer à la permanence de soins, ville, clinique privée, centre de santé, etc., tout le monde doit participer à la permanence de soins. Ça ne veut pas dire aux heures ouvrables. Ça veut dire H24. Ça, oui, ça c'est nécessaire. Mais ça veut dire, je vous rappelle, que l'erreur de tout ça, c'est bien le politique qui l'a faite en 2002 quand ils ont enlevé du code de déontologie l'obligation pour tout médecin de participer aux gardes de nuit.
On parle suffisamment de santé, selon vous, dans cette campagne ?
Oh non, mais vous savez, moi je suis un très très grand déçu de la politique, quel qu'il soit. Je suis dans mon coin avec l'action sociale et je les trouve absolument pitoyables. Et ils nous ont totalement oubliés hein, dans le débat du second tour, hein, Le Pen-Macron, ils ont parlé de la santé une minute. Voilà.
Bon. Eh bien, merci en tout cas, Patrick Peloux, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.
Je rappelle merci que vous êtes médecin urgentiste, président de l'association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Un bref rappel de l'actualité et on passe à la pop culture. Mathieu Alterman nous parle ce matin des artistes français qui cartonnent à l'étranger. Oui, à l'étranger, mais pas en France. Le journal permanent, juste après ça.
Europe Matin Weekend, Raphaël Delvolvé.
Le journal permanent avec Yoann Tritt.
Donald Trump appelle à armer les citoyens. Résumé du discours de l'ancien président au congrès de la NRA, des manifestants pro et anti-armes se sont fait face en marge de l'événement qui a lieu à Houston, au Texas, et à quelques heures de route seulement d'Uvalde, des lieux de la fusillade qui a fait 22 morts dans une école primaire. Les autorités locales ont admis avoir pris une mauvaise décision après la colère des familles de victimes. La police a attendu près d'une heure avant d'intervenir. Joe Biden se rendra sur place demain. En Ukraine, situation toujours critique dans le Donbass. La ville de Severodonetsk est encerclée. C'est le dernier bastion ukrainien de la région de Louhansk, cité quasiment détruite par les bombardements. L'OMS s'inquiète. La France minimise. 7 cas de variole du singe ont été avérés dans le pays. 2 personnes ayant été en contact ont été vaccinées. Le ministère de la Santé assure avoir assez de doses pour contrôler la maladie. Le sport avec la victoire du Loup hier face à Toulon en Challenge Cup. Succès 30-12 au stade Vélodrome de Marseille. Premier trophée européen pour les Lyonnais. Et puis qui va remporter la Palme d'Or à Cannes. Le festival touche à sa fin. Réponse ce soir 20h30 et pour les favoris, c'est tout à l'heure dans le journal.
Merci cher Johan Tritz pour nous informer toute la matinée sur Europe 1. Mathieu Alterman est avec nous dans une poignée de secondes. Même tout de suite, merci d'être avec nous sur Europe 1.
Europe Matin Weekend.
Raphaël Delvolvé.
Notre rendez-vous pop culture avec Mathieu Alterman. Bonjour Mathieu.
Bonjour Raphaël.
Ils font un bide chez eux, mais cartonnent à l'étranger. Ce matin, vous nous parlez de ces artistes français donc, qui ont du succès là où ils ne l'attendaient peut-être pas, c'est-à-dire loin de leur base.
Bah, il y en a fait d'incroyables destins parmi les artistes de notre pays que nous allons passer en revue ce matin. Ils jouent dans le monde entier, mais peuvent se promener dans les rues parisiennes sans être reconnus. Les voici. Alors tout d'abord, le groupe de pop électronique R, depuis 1997, et ce tube mondial Sexy Boy. Le duo remplit les stades aux États-Unis, en Angleterre, au Japon ou en Amérique du Sud. Un 5 albums, 2 BO cultes avec Lost in Translation et The Virgin Suicide. Et un disque entier composé pour Charlotte Gainsbourg, qu'il est bon de pouvoir jouir de l'anonymat chez soi lorsque l'on est une star à Hollywood. Alors, venu tout comme R de Versailles, autre duo électro issu de la French Touch, c'est bien évidemment...
Ça.
Daft Punk, évidemment, dont le succès à travers le monde a toujours été bien supérieur aux ventes locales, comme si la France se refusait à leur donner trop de plaisir. Alors, avantage, hein, en enlevant leur masque, le groupe, aujourd'hui séparé, pouvait s'acheter tranquillement des glaces à Franprix sans jamais être reconnu.
Et alors, ce qui est fou, Mathieu, c'est qu'il y a de nouveaux talents qui marchent exactement sur le même modèle.
Bah, tout à fait. Le concert qui a donné la plus forte impression à la dernière édition du festival de Coachella en Californie est celui du groupe L'Impératrice. Le groupe est en tournée mondiale depuis plusieurs mois. Autre succès à l'export, le chanteur soul Sly Johnson. Life, Eh bien, Sly Johnson, à travers son nouvel album, régale les amateurs de Prince, D'Angelo ou Maxwell, et ce, sur plusieurs continents.
Alors là, on parle des Français qui ont bidé en France, mais qui ont cartonné à l'étranger. Mais vous m'avez expliqué, en préparant cette émission, Mathieu, que le phénomène contraire existe aussi.
Mais absolument, des artistes anglais et américains qui n'ont jamais connu de grand délire de la part du public français, tel l'américain Billy Joel. L'un des plus grands vendeurs de disques au monde, un recordman du nombre de concerts en Madison Square Garden avec 120 passages, et il n'est pas venu chez nous depuis un seul Bercy en 1994. Autre absurdité. Le groupe mythique anglais Electric Light Orchestra, qui a aligné les tubes entre 1973 et 1986, s'est reformé depuis quelques années, donne des concerts dans tous les stades du monde, sauf en France. Incroyable. Et parfois, cette absence de succès touche également les séries. Star Trek est une institution américaine depuis les années 60 et a laissé notre pays indifférent jusqu'au nouveau film sorti dans les années 2000. Le sitcom américain ayant eu le plus grand nombre de succès de toute l'histoire, c'est Seinfeld. C'est un chef-d'œuvre d'humour qui a rapporté 1 milliard de dollars à chacun de ses deux créateurs, Jerry Seinfeld et Larry David. Eh bien, succès de folie partout, sauf dans un seul pays, la France, inexplicable. Je vous conseille tout de même de regarder l'intégrale sur Netflix. Enfin, terminons par celle qui provoque des émeutes dans toute l'Amérique du Sud, à la grande surprise du public français, qu'il a quelque peu oublié, Alizé. À demain, Raphaël.
À demain, Mathieu. Ça nous rajeunit pas. C'était la chronique de Mathieu Alterman. Tiens, rendez-vous à noter tout à l'heure, après le journal de 7h30, Patrick Mahé, le directeur de la rédaction de Paris Match, reviendra sur le retour de Juan Carlos d'Espagne. Le roi déchu en exil est revenu dans son royaume. Il est arrivé heureux, mais il n'est pas forcément reparti de bonne humeur. Vous l'entendrez, ce sera après le journal de 7h30, dans lequel nous irons notamment à Roland-Garros. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin Weekend. Raphaël Delvolvé.
L'actualité, nos chroniques vous font réagir. N'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook Europe Matin Weekend. On se fera un plaisir de vous lire le journal de 7h30 avec vous, Victor Porcher. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Le Festival de Cannes se termine ce soir. Au programme, la fameuse cérémonie et la révélation du palmarès de cette 75e édition. Alors Marie Jiquel, c'est l'heure des pronostics et la Palme d'Or pourrait bien être belge cette année.
Et oui, deux films belges se sont distingués lors de cette 75e édition, sans surprise. Celui des frères Dardenne, déjà deux palmes d'or sur leur cheminée, ils présentaient Tori et Lokita, drame social qui pourrait d'ailleurs toucher Vincent Lindon, sensible à ces problématiques. Tori et Lokita qui racontent le parcours de deux réfugiés béninois.
Qu'est-ce que tu penses de mon idée de voler de la drogue ?
J'ai pas envie que tu deviennes un dealer et que t'arrêtes l'école.
Sortie prévue en septembre prochain, et puis un outsider, et vous savez que le jury flash souvent sur les cinéastes plus discrets. Ce réalisateur avait déjà marqué les esprits en 2018 avec son film Girl, caméra d'or cette année-là. Il s'agit de Lucas Donte qui a ému la croisette avec son drame Close. Beaucoup de larmes devant cette amitié entre deux adolescents, une amitié moquée par le reste de la classe.
Je veux dormir chez Rémi ce soir.
Mais d'autres films pourraient faire de l'ombre aux réalisateurs belges. RMN du roumain Christian Mungiu, déjà palme d'or avec son film 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Et puis le film Leïla et ses frères, signé Saïd Roustaï, cinéaste iranien révélé par son film La loi de Téhéran.
Marie Jiquel du service culture d'Europe 1.
Les autorités sanitaires vigilantes face à la progression de la variole du singe en France.
Oui, même si elle est peu présente dans le pays, 7 cas étaient avérés ce mercredi. Les autorités prennent les devants. Deux premières personnes ont été vaccinées hier à Paris. Annonce de la Direction générale de la Santé. Ces patients sont considérés comme ayant eu un contact à risque avec un malade.
Aux États-Unis, Donald Trump invité d'honneur cette nuit de la NRA, le lobby pro-armes aux États-Unis.
Trois jours après la tuerie dans une école d'Uvalde au Texas, l'ancien président a appelé à armer les citoyens pour combattre, dit-il, le mal dans notre société. Alors que la police texane reconnaît une erreur dans sa lenteur de l'intervention sur les lieux. Dans un témoignage poignant, une fillette survivante raconte comment elle a échappé au tireur de 18 ans en se recouvrant de sang pour se cacher.
En Ukraine, Kiev s'engage à tout faire pour défendre le Donbass.
Réponse aux attaques toujours aussi violentes que subit cette région de l'est de l'Ukraine. Les forces séparatistes pro-russes revendiquaient la prise de la localité clé de Liman hier, tandis que celle de Severodonetsk est-elle encerclée.
Grande soirée foot à vivre ce soir sur Europe 1 à partir de 20h. Le Stade de France accueille la finale de la Ligue des Champions.
Le Real Madrid rêve de décrocher son 14e titre dans la compétition, mais il faudra battre les Reds de Liverpool ce soir. Près de 100 000 supporters attendus autour du stade et dans la capitale, 60 000 Anglais et près de 30 000 Espagnols. Et beaucoup n'ont pas de billets, de quoi occuper le dispositif de sécurité mis en place par la préfecture de police. Écoutez Grégory Joron, secrétaire général du syndicat SGP Police.
Il y aura 7 ou 8 forces mobiles autour du Stade de France, plus des effectifs locaux qui vont en effet ceinturer le stade quasiment un kilomètre autour pour éviter justement que tous ces supporters sans billets puissent accéder quasiment aux portes et finalement mettre une pression sur les stadiers ou faire en sorte qu'on puisse être débordé sur place. Donc en fait, l'idée c'est de filtrer bien en amont, de mettre cette ceinture autour du stade avec un dispositif assez conséquent, encore une fois quasiment d'une dizaine de forces mobiles, ne serait-ce que pour encadrer cette partie-là. Ça reste un dispositif somme toute assez conséquent, mais l'enjeu le mérite, j'ai envie de dire, c'est limite un test match pour aussi ce qui peut nous attendre en 2024 pour les Jeux Olympiques, à savoir pouvoir encadrer des éléments d'ampleur comme ça, qui regroupent énormément de personnes.
Des propos recueillis par Guillaume Dominguez pour Europe 1.
Merci Victor Pourchet. On reparle sport dans quelques instants. On ira à Roland-Garros où Cédric Chasseur nous attend. Mais avant, les couleurs du ciel, la météo de Valérie Darmon, du beau et du chaud, Valérie.
Effectivement, Raphaël, pour notre week-end, le dernier du printemps météorologique, les conditions sont juste parfaites et agréables. Le soleil est partout. On a quelques nuances de gris qui s'invitent juste sur le quart nord-est ce matin, c'est-à-dire entre Valenciennes, la Vénois et les plateau lorrain. Partout ailleurs, ce soleil qui brille partout sans restriction. Il faut juste patienter aussi dans les Landes et au Pays Basque en raison des brumes du matin. Et prudence en montagne si vous randonnez. Les orages ne seront jamais très loin, surtout sur les Alpes du Sud. Les températures sont très contrastées entre une relative fraîcheur au nord de la Loire et une chaleur modérée au sud avec des maximales entre 16 au Havre et 32 à Toulon.
Merci Valérie.
Europe 1, le journal de Roland Garros.
Et c'est avec Cédric Chasseur. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Avant de parler des matchs du jour, quelques mots des résultats d'hier avec les favoris au rendez-vous dans le tableau masculin.
Oui, aucune surprise chez les grosses têtes de série. Qualification express pour le quatrième tour du numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Rafael Nadal, 13 fois vainqueur ici, n'a pas traîné non plus. Succès également en 3-7, tout comme Alexander Zverev, la tête de série numéro 3. Et Carlos Alcaraz, l'Espagnol de 19 ans, qui s'est rassuré en battant en 3 manches l'Américain Sébastien Corda. Chez les dames, on notera la défaite de la seule française sur les courts hier, Diane Parry, 19 ans, 97e joueuse mondiale, mais qui n'a pas résisté à la pression du court Philippe Châtrier et d'un troisième tour face à l'américaine Sloane Stephens, finaliste ici en 2018, défaite en deux manches, 6-2, 6-3, une performance qui ne satisfait pas la joueuse française.
Déçue parce que je sentais que si j'avais donné peut-être moins de fautes gratuitement, que mon revers... Si j'avais un peu mieux senti mon revers, j'aurais peut-être réussi à faire mieux en tout cas. Donc déçu de ce côté-là. Mais après, ça montre justement tout ce qui a travaillé. Encore pas mal de choses justement pour arriver à ce niveau-là.
Diane Parry éliminée donc par Sloane Stephens. L'américaine affrontera en huitième de finale la Suissesse Gill Tecman, tête de série numéro 23.
Et dans le tableau féminin, les chances tricolores reposent désormais sur deux joueuses que nous aurons l'occasion de voir sur le court ce samedi.
Sur le court, Philippe Châtrier, Alizé Cornet sera opposée à la chinoise Qin Wenzheng. Et sur le court, Suzanne Lenglen, Léolia Jeanjean tentera de prolonger son bon parcours. La 227e joueuse mondiale invitée dans ce tournoi affrontera la roumaine Irina Camelia Begu. Et pour son entraîneur Thomas Delgado, il y a la place pour aller plus loin.
Le parcours qu'elle fait là est dingue, mais on savait qu'elle avait dans les pattes, quoi. Au niveau tennistique, ce qu'elle a prouvé aujourd'hui, elle me le prouve tous les jours sur l'entraînement. Donc j'étais pas surpris de son niveau de jeu. Aujourd'hui, il faut qu'elle se positionne comme une fille top 50. Alors, elle n'a pas le classement, mais elle joue top 50. Donc, quand vous êtes top 50 dans votre tête et que vous jouez une fille top 10, c'est juste l'étape supérieure. Par contre, si vous positionnez comme une fille top 20, 220, bah là, l'étape, elle est trop grande. Donc, tout le travail d'avant-match, c'était de se dire qu'elle était top 50 et qu'elle était capable de le faire.
Thomas Delgado, l'entraîneur de Léolia Jeanjean.
Léolia Jeanjean et Alizé Cornet qu'on va regarder donc cet après-midi. Et puis, dans le tableau masculin, il y a deux Français également, Cédric.
Jusqu'où ira Gilles Simon dans son dernier Roland-Garros ? Le joueur de 37 ans jouera face au Croate Marin Cilic, tête de série numéro 20. Et puis en soirée, le grand match du court Philippe Châtrier opposera le Danois Holger Rune et le magicien français Hugo Gaston, le chouchou du public ici, Porte d'Auteuil.
C'était le journal de Roland-Garros, signé Cédric Chasseur. Merci Cédric.
Roland-Garros 2022.
Europe 1, radio officielle.
Europe 1, il est 7h38 à Paris et à Roland-Garros. La photo Paris Match, le directeur de la rédaction Patrick Mahé est avec nous comme chaque semaine. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Cette semaine, Paris Match revient sur le retour d'un roi, ou plutôt le retour d'un ancien roi, Juan Carlos d'Espagne, de retour sur ses terres alors qu'il est en exil dans le Golfe.
Bah oui, on sait qu'il est à Abu Dhabi et qu'il est en exil parce qu'il est accusé de malversations diverses et variées. Certes, la justice suisse a abandonné ses poursuites. Certes, en Espagne, c'est à peu près la même chose. Mais pour Felipe, son fils, vraiment, les malversations supposées ou établies de son père ne passent pas. Alors lui, Juan Carlos, est revenu d'Abu Dhabi dans un avion privé qui a été affrété par l'Émirat.
Photo exceptionnelle dans Paris Match.
La photo est unique, vous la verrez nulle part ailleurs, dans aucun journal. Nous sommes les seuls à pouvoir la publier. Il montre la terre qui lui est chère, l'Espagne, et il débarque pour 5 jours seulement avant d'avoir pris l'avion du retour. Après un déjeuner à la Zarzuela avec son fils, un déjeuner extrêmement orageux.
Qui s'est mal passé, c'est à lire donc dans Paris Match cette semaine. Et puis en une, on lit également le naufrage à l'hôpital, la vérité sur le salaire des soignants notamment.
Oui, c'est encore aussi une exclusivité, elle est d'ailleurs triste, puisque on voit, quand on regarde le détail des photos publiées, on voit ces soignants, alors ce sont tous les soignants, kinés, aides-soignants, infirmiers, médecins, contractuels, etc., qui présentent leur bulletin de salaire. Donc on voit à quel niveau ces salaires sont ridicules pour des qualifications et surtout d'énormes responsabilités.
Les révélations sur l'hôpital français à lire dans Paris Match cette semaine. Merci Patrick Mahé.
Merci à vous.
Et puis dans vos kiosques ce matin, aujourd'hui en France, vous invite à profiter des fruits de l'été. C'est le moment d'en profiter, nous dit Le Quotidien en une. Et puis bouquet final au féminin et au pluriel pour l'équipe. Le Quotidien sportif met en une Liverpool et le Real Madrid, la finale de la Ligue des Champions. Et puis La Rochelle et Leinster, l'autre finale, la finale de la Coupe d'Europe de rugby. Et oui, c'est aujourd'hui. Dans quelques instants, le Club Culture sur Europe 1.
Réveillez-vous.
Informez-vous avec Raphaël Delvolvé sur Europe 1.
Un long et beau week-end de l'Ascension, c'est toujours l'occasion de se cultiver, s'évader et se déhancher. Voici par ici les sorties sur Europe 1. Nicolas Caro pour vos livres, Laurie Choleva pour vos films et Stéphanie Loire pour la musique. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Et on commence avec le cinéma et Laurie, j'ai envie de dire forcément, évidemment, il faut aller voir le nouveau Top Gun Maverick, film européen, on le rappelle.
Alors voilà la nouvelle bande originale par Lady Gaga. Effectivement, c'est un peu l'incontournable de la semaine, hein, le retour du pilote Pete Mitchell alias Maverick, et je peux vous dire qu'il avait manqué au public puisque mercredi matin lors de sa sortie, le film a totalisé plus de 100 000 entrées en France, je crois à peine à 10h du matin. Donc ça laisse présager des chiffres. Alors Maverick, qui n'a rien perdu de son côté tête brûlée, provocateur, est cette fois rappelé au sein de l'école Top Gun, non pas pour voler mais pour devenir instructeur auprès des meilleurs pilotes du pays, pour les former en vue d'une mission particulièrement dangereuse. Évidemment. Le problème, c'est que parmi ces jeunes se trouve le fils de son ancien coéquipier, vous vous souvenez, Goose, qui décède dans Top Gun et dont la mort ne cesse de le hanter.
Capitaine de vaisseau Pete Maverick Mitchell. Je vais être franc, vous n'étiez pas mon premier choix.
Et c'est reparti.
On va devoir se battre, comme aucun pilote ne l'a fait avant nous. Même pas lui.
Alors une suite qui tient ses promesses, dans laquelle on retrouve de nombreux clins d'œil à Top Gun, dont une scène très attendue, je ne spoil rien, c'est partout, la scène des retrouvailles avec Val Kilmer. On retrouve aussi... Oui. On retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès du film. Et puis Tom Cruise surtout, qui prouve une nouvelle fois quand même qu'il est l'une des plus grandes stars du cinéma. Il met tout le monde d'accord. Il est intense, il est émouvant, il est crédible dans toutes les scènes d'action. Il a supervisé d'ailleurs lui-même toutes les scènes aériennes. C'est vraiment un film qui se voit sur grand écran avec des effets spéciaux absolument de dingue. Et puis cette nouvelle génération de pilotes qui tient très bien la route, la relève est assurée avec notamment Miles Taylor dans le rôle du fils de Goose. Et Jennifer Connelly, une présence féminine qui trouve facilement sa place. Écoutez justement Jennifer nous parler de sa relation avec Tom Cruise.
Tom est vraiment extraordinaire. Il est tellement talentueux dans plein de choses différentes. Il est tellement enthousiaste dans tout ce qu'il fait, tout le temps, tous les jours. Et c'est très contagieux et absolument fabuleux d'être à ses côtés.
Voilà, donc bon cinéma à vous.
Merci Laurie Choleva, on va courir aller voir Top Gun Maverick, la suite, c'est un film européen. Merci Laurie Choleva. On passe à vos bouquins, la littérature avec Nicolas Carreau ce matin. Vous nous parlez d'un roman sur la mémoire.
Oui, et sur la manière de faire remonter les souvenirs quand ça devient nécessaire, y compris si la mémoire est cruelle. Ça s'appelle « La vie qui commence » chez Lattès, signé Adrien Born. C'est son deuxième roman. Il avait eu un gros succès avec le premier « Mémoire de soi », un roman historique dans une magnanerie. Vous savez ce que c'est une magnanerie ?
Non.
Ça peut servir au trivial. Mmh. C'est là où on élève les vers à soi. C'était un roman pur, tragique, les années 30 et tout. Bon, là, rien à voir. Le roman s'ouvre dans les années 90. C'est un gamin qui raconte. Au passage, c'est très dur d'écrire comme un ado qui parle. Et là, le ton est très juste. Un chouette gamin de 12 ans, dont Gabriel, vous pouvez l'appeler Gabi, bien content parce qu'il est tout seul chez lui. Mmh. C'est l'été, le Tour de France à la télé. Il s'est préparé une glace. Il est en train de regarder son cycliste préféré. Bonheur total.
Mais il y a un mais.
Ah bah oui. Sinon, il n'y a pas de roman. Mais ding-dong, on sonne à la porte. Impossible de répondre. L'instant est crucial pour le coureur. Mais ding-dong encore. Gabi ouvre, il y a un homme qu'il reconnaît tout de suite, mais il lui claque la porte au nez.
Et pourquoi ?
On comprend ensuite. Flashback. Gabi arrive en colo un mois plus tôt. Il fait pas trop le fier, c'est le plus petit. Il faut s'intégrer et tout, on connaît ça. Et puis assez vite, Julien, le caïd, le prend dans son gang. Et donc ça se passe bien, bêtise, rigolade, la colo. Jusqu'à ce matin où un mono entre dans sa chambre et abuse de lui. Il ne dit rien. Et le lendemain matin, et le lendemain matin, et le lendemain matin. Une dizaine de jours. Et Gabi ne dit toujours rien. Pour mille raisons mystérieuses qui appartiennent aux victimes. Mais 20 ans plus tard, Gabi, dans le roman, et Adrien Born, dans la réalité, décident de parler, de dire. Et c'est ce que raconte ce livre, comment se relever et comment les autres, tous les autres, y aident. Alors je sais, il fait beau, l'été approche, on a envie de sourire et tout. Mais d'abord, très bizarrement, ce livre, malgré le sujet, n'est pas dénué de sourire. Et surtout, c'est déchirant de sincérité et écrit avec une justesse peu commune dans les différentes voies du récit.
La mémoire à l'épreuve des traumatismes, c'est un roman signé Adrien Born. Ça s'appelle « La vie qui commence chez Lattès ». Merci Nicolas Carreau. On passe à la musique dans quelques instants.
Europe Matin Weekend, Raphaël Delvolvé.
Mais avant, l'actualité, l'Info Express, Victor Pourchet.
C'est ce soir que nous découvrirons le film vainqueur de la Palme d'Or au 75e, dans la 75e édition du Festival de Cannes. Au programme de la cérémonie, la révélation du palmarès. Parmi les favoris, Tori et Lokita des Frères Dardenne ou encore RMN du réalisateur roumain Cristian Mungiu. Aussi en lice, le français Arnaud Desplechin avec le film Frères et Sœurs. Le jury s'est retiré dans le procès qui oppose Johnny Depp à son ex-compagne, l'actrice Amber Heard. Au terme de longs et âpres débats de 6 semaines, les jurés doivent décider si l'actrice a bien diffamé l'interprète de Jack Sparrow. Elle avait déclaré être une personnalité publique représentant les violences conjugales. Donald Trump s'est exprimé lors du rassemblement de la NRA aux États-Unis. L'ancien président a appelé à armer les citoyens pour combattre le mal dans notre société. Des propos qui interviennent 3 jours après la tuerie dans une école d'Uvalde au Texas. 19 enfants y ont perdu la vie. Le Rassemblement national et Reconquête dans le Sud-Est n'en finissent plus de s'affronter. Déjà opposé au candidat RN dans sa circonscription du Var, Éric Zemmour sera en soutien du porte-parole de son parti Stanislas Rigaud lors d'un meeting à Carpentras dans le Vaucluse. En sport, soirée de finales européennes en perspective. En rugby, d'abord, La Rochelle défie Leinster. En foot, c'est la tant attendue finale de la Ligue des Champions qui verra jouer Liverpool et le Real Madrid du français Karim Benzema.
Merci Victor Pourchet, que l'on retrouvera tout à l'heure à 10h sur Europe 1 pour un nouveau journal. Dans quelques instants, on va dans la salle de musique du Club Culture d'Europe Matin. A tout de suite.
Réveillez-vous.
Informez-vous. Avec Raphaël Delvolvé sur Europe 1.
Par ici les sorties, la suite. Nous sommes toujours avec Nicolas Caro, Laurie Choleva et Stéphanie Loire pour la musique.
Et oui.
Place à la musique donc. Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour à tous, bonjour Raphaël.
Nous sommes en pleine saison des festivals et vous nous emmenez en Bretagne ce week-end.
Je vous fais voyager dans ma valise, c'est la saison des festivals qui est ouverte. Le plaisir retrouvé de savourer des concerts en plein air, assis dans l'herbe, à partager une barquette de frites à 6 entre amis au son des guitares. Je vous présente ce matin le festival Art Rock qui fait son retour à Saint-Brieuc, très jolie ville, dans les Côtes d'Armor. Ce sera du 3 au 5 juin prochain. Avec au menu 70 concerts. C'est bien Phoenix, hein? Alors Phoenix, c'est le groupe de génie pop-rock électro made in Versailles qui signe son retour très attendu sur la scène de ce festival Art Rock. Ce sera la 39e édition et tout va se jouer en plein cœur de la ville de Saint-Brieuc. Le pouls de la Bretagne va littéralement battre et vibrer au son du rock pendant 3 jours de concerts, de fêtes, de joie, de plaisir extatique de retrouver les artistes sur scène et les effluves de sueur des voisins qui nous manquaient beaucoup.
Alors côté programmation, il y a du beau monde, il y a Stéphanie Loire, on va y revenir dans quelques instants,
bien sûr,
mais
ouais.
Qui on peut voir d'autre Stéphanie?
Le vendredi 3 juin par exemple, il y aura Phoenix, je vous le disais, en première mondiale, c'est un événement, le groupe au sommet de la French Touch devenu star planétaire et qui a décroché notamment un Grammy Award, va présenter son nouvel album pour lequel on brûle d'impatience, je brûle littéralement d'impatience. Il y aura aussi du soleil et de la douceur, c'est l'été, ça tombe bien, avec l'artiste franco-nigérienne Asha. Je vous parlais de voyage, on y est là. Hein. Elle affiche du hard rock sur les scènes de Saint-Brieuc. Il y aura aussi le rappeur Gazo, The Liminianas. Alors The Liminianas, est-ce que vous connaissez Raphaël?
Non, pas du tout.
C'est le groupe qui a sorti un album, une pépite rock psyché en collaboration avec le roi de l'électro, Monsieur Laurent Garnier. Écoutez ce que ça donne.
Irrésistible.
Je vous recommande cet album à écouter, c'est une histoire carrément, c'est un film audio. Le samedi 4 juin à Saint-Brieuc, il y aura Gaël Faye, le beatmaker héritier de Manu Dibango, James BKS. Il y aura de la pop réconfortante, de la pop comme de la guimauve, celle de November Ultra. Et la queen de la disco, celle qui nous fait lever de notre chaise. Vous savez, même quand on est dans une soirée sans alcool qu'avec du bon gars et que clairement on s'ennuie, c'est Juliette Armanet.
Ah. Ça je connais.
Je ne sais pas si ça vous fait le même effet à la maison, mais ici dans le studio, Raphaël danse et saute sur sa chaise.
La tête comme un dindon.
Le dimanche, on aura la voix cassée parce qu'on aura chanté pendant déjà 2 jours. On aura dormi 4 heures en 2 jours, on aura les genoux pleins de bleu. Mais on sera encore là, frais, pimpant et partant pour voir Jane Birkin, Pete Doherty et Frédéric Lowe, Lelo et Clara Luciani.
Oh là là, il va falloir beaucoup, beaucoup d'énergie pour ce festival Art Rock. Il va y avoir des événements en parallèle aussi.
Ouais, déjà, on va y installer un studio itinérant d'Europe 1 puisque je vais y animer une émission musique spéciale en direct de Saint-Brieuc avec les artistes du festival, dont le groupe Phoenix. Il y aura aussi des spectacles de danse, une expo, des conférences. Et pour les mélomanes gourmands qui ont envie de se régaler, il y a Rock and Talk.
Qu'est-ce que c'est ça?
Eh bien, ce sont des propositions gastronomiques qui auront lieu tout au long du festival, tout le week-end, préparées par des chefs de la région, dont 3 chefs étoilés. Donc attention, ça ne plaisante pas. En tout cas, moi, vous saurez me trouver entre Phoenix et la bonne table.
C'est bien noté, Stéphanie Loire. Europe 1 présent au festival Art Rock de Saint-Brieuc, c'est dans les Côtes d'Armor. Ce sera du 3 au 5 juin prochain, le festival qui va donc accompagner le grand retour du groupe que vous entendez là à l'instant, Phoenix.